Bonsoir et bienvenue dans Radio Cinéma Club, votre émission 100% 7ème art. Retrouvez le collectif The Bloggers Cinéma Club tous les mercredis soirs de 19 à 21h sur ZKM Radio, bien entendu.
Ce n'est pas une défaillance de votre ordinateur. N'essayons pas de régler le volume. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les hautes et basses fréquences. Nous pouvons vous noyer sous un millier de décibels, ou bien dilater un son jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre oui et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant les 2 heures qui viennent, nous contrôlons tout ce que vous allez entendre. Bonsoir chers auditeurs, chers cinéphiles, repentis ou non, chers discophiles et autres discopathes, et enfin chers sérivores, qui auront bien entendu reconnu le générique de la série Au-delà du réel. Pourquoi ce choix? Parce que notre association a subi une deuxième attaque de trolls d'une mauvaise foi sans nom, et que c'est un peu là qu'on a eu l'impression d'être ces dernières semaines. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que non, ce n'est ni le moment ni le lieu pour discuter de cela, et que cette personne ne nous écoute sûrement pas, bien trop occupée, à chercher les films allemands qu'Otto Preminger et Billy Wilder n'ont jamais réalisés. Pour conclure, comme le dirait Christophe Comte dans ses billets durs, je t'embrasse pas, j'ai du popcorn plein la bouche. Non, ce soir, cette émission sera dédiée à l'amour. À l'amour du cinéma, bien fait ou mal foutu. À l'amour de tous les genres de cinéma confondus, et surtout de toutes les nationalités. Non, nous ne sommes pas que des moutons regardant bêtement des productions hollywoodiennes en mangeant du popcorn et en sirotant un Coca Life pour nous donner bonne conscience. Même si nous commencerons notre tour de la Terre par les États-Unis, nous ferons des détours par l'Italie, le Japon, la France, l'Afrique du Sud, l'Australie et même l'Allemagne en toute fin d'émission. En parlant d'amour, je voulais remercier la trentaine de personnes qui sont venues à notre soirée de la Saint-Valentin, au Palace, et qui ont pu découvrir le court-métrage de Margot, que j'accueille ce soir.
Bonsoir.
Merci de retenter l'aventure avec nous. Valentin également, mon Eric Nolo à moi. Thomas, dont je n'ai pas encore décidé s'il était Kamkab ou non.
Bonsoir, c'est pas moi.
Et enfin Sylvain, le petit nouveau ex-vieux du Muppet Show, qui fait ses premiers pas avec nous ce soir.
Bonsoir tout le monde.
Bravo.
Mais surtout, puisqu'on parle d'amour, on a nos premiers invités ce soir. On a invité nos petits chouchous, les membres du studio Super 5, qu'on suit depuis un petit moment et qui sont représentés ce soir par Jean Chauvelot. Salut Jean.
Bonsoir.
Et Romain Gamba.
Bonsoir.
Donc voilà, donc c'est avec vous qu'on va commencer cette émission. Si on a décidé de vous inviter ce soir, c'est parce que vous êtes un tout petit peu dans l'actualité, que vous avez fièrement représenté la ville de Metz au dernier Nikon Film Festival, qui s'est tenu le 12 février dernier à Paris. Donc voilà, c'est la troisième participation, je crois.
Ouais, troisième.
Depuis 2012. Merci Margot.
Mais c'est la deuxième ouais, qui avait un peu planté ses fruits. La toute première, c'était comme un flop.
C'est vrai?
Ouais. Ouais, le premier, personne n'en a trop parlé, les gens n'ont pas trop pigé le film.
C'était un petit échauffement.
Un échauffement, quoi. Non, c'est vrai que même quand on en parle autour de nous, quel film, c'est quel?
C'est celui avec les zombies, c'est ça?
Voilà, avec un zombie.
Avec un zombie.
Voilà. Ouais. Mais il aurait mérité 30 secondes de plus pour être compréhensible. Mais on est content de l'avoir fait.
D'accord, donc évidemment, j'invite tous les gens pour aller découvrir tous les films que vous avez fait sur votre Vimeo, par exemple, ou sur votre site.
Notre site internet, ouais.
www.studiosuper5.com.
Merci Romain. Donc tout à l'heure tu parlais de la durée des courts-métrages. Donc en fait, pour expliquer un peu le principe du Nikon Film Festival, c'est que les gens sont censés réaliser un film qui doit durer 2 minutes 20 au maximum, c'est ça?
Voilà, on a un choix imposé tous les ans, un thème imposé tous les ans. Cette année c'était le choix.
Ouais.
Et la seule vraie contrainte à part ce thème, c'est la durée, quoi. Moins de 2 minutes 20. Absolument moins de 2 minutes 20.
D'accord, donc toutes les techniques sont possibles. Alors vous pouvez utiliser ou un appareil photo, une caméra.
Oui, mais il faut que ce soit du HD. Et c'est la seule chose qu'il faut en HD. Bon, après, on peut très bien. Moi, mon premier film que j'ai envoyé à Nikon, non. Non, mais je sais qu'on peut. On prend en film en mini DV et après on convertit en HD et on a le droit.
Ça peut être de l'animation, ça peut être n'importe quoi.
Ça peut être n'importe quoi. Tout à fait. Documentaire ou pas documentaire.
D'accord, ça marche. Alors, je crois que l'édition de cette année a particulièrement bien marché, puisqu'il y a 1091 films qui ont été proposés. Et du coup, vous êtes arrivé parce que les gens peuvent voter en ligne pendant quelques mois sur le site du festival.
Ouais.
Et donc vous êtes arrivé
sixième sur les 1091 films envoyés. Bon, ce qui, je tiens à le signaler, on tient à signaler que ça n'engage à rien sur la qualité du film,
non, bien sûr,
ni même sur le succès populaire, mais juste sur notre capacité à avoir un réseau de gens qui nous suivent et qui sont réguliers et fidèles. Et on était très touchés par ça. En fait, chaque année, on dit ouais, mais le prix du public, c'est de la merde. Ces gens qui ont un gros réseau, ça sert à rien. Mais là, tout cette année, on se raccroche un peu à ça, vu qu'on a perdu le reste, on se dit, ouais, quand même, on est sixième.
Mais carrément, vous avez bien fait, parce qu'il me semble que les films qui ont été primés, donc, par le jury, sont aussi des films qui ont été très, très soutenus par le public. Je crois souvent. Que c'était un petit peu du même acabit.
Sauf le Grand Prix du jury, qui est quand même assez excellent. Ça fait une paire d'années qu'ils participent au concours, cette équipe-là. Et leur film est toujours excellent, mais très rarement soutenu, en fait. J'en ai parlé au réalisateur, parce qu'on l'a rencontré à la soirée à Paris, là. Et lui, il a dit ouais qu'ils se donnaient vachement de mal pour faire des bons films et qu'ils étaient vraiment nuls en com. Bon, d'accord. Ça les a pas empêchés de gagner, mais en tout cas, ils sont nuls en com.
Ok. Donc c'est le film avec la chouette là.
Ouais, c'est ça.
Excellent.
C'est peut-être un hibou, peut-être.
Enfin voilà. Bon bref. En tout cas, je vous invite à aller sur le site du festival Nikon Film Festival pour au moins voir les 5. Je crois qu'ils sont 5 hein, les films à avoir été primés.
Ouais, 5 prix plus un prix du.
Un prix spécial
cœur,
cette année pour Je suis un migrant.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Donc voilà. Et bon, après le festival, on en parlera peut-être un tout petit peu à la fin, mais surtout voilà, on voulait vous inviter pour un petit peu parler de vous, là, juste présenter votre équipe, nous raconter ce que vous faites, ce que vous avez envie de devenir, etc.
Alors riche, ce qu'on a envie de devenir, ce qu'on fait, enfin non, qui on est. Alors on est 5, on a monté le collectif à 5. On s'est tous rencontrés à l'école, en fait. Ouais. On était aux Beaux-Arts ensemble, pas forcément dans les mêmes classes, mais on s'est rencontrés là. Donc il y a Romain Gamba, Maximin Costa, qui sont tous les deux les cadreurs de Super 5.
D'accord.
Luc Schaeffer, Lucie Chausselaire et moi-même, Jean Chauvelot. Et en fait, on fait tous un peu tout, sauf Romain et Max qui sont clairement les cadreurs. On est vraiment tous co-auteurs.
On fait aussi d'autres trucs aussi.
Et oui, qui sont tous un peu tout. Mais non, vous êtes. Il y a pas d'autres cadreurs que eux deux, mais eux deux ne sont pas que cadreurs. Voilà, ça.
Exact.
Voilà. Après, on fait tous un peu tout quand même. On co-écrit, enfin, on discute de tout ensemble tout le temps.
Ouais, tout est pensé
à 5 cerveaux, quoi. Après, Lucie fait les effets spéciaux, moi j'écris les choses, Luc joue, parce qu'il est jamais là, parce qu'il est à Bruxelles, mais du coup il revient jouer, mais il a des bonnes idées aussi, donc voilà.
D'accord, donc c'est un peu le même modèle que notre collectif ici au Blogueur Cinema Club, c'est le fait d'avoir pris des gens d'horizons un peu différents pour justement avoir une espèce d'émulation. Margot, la semaine dernière, on parlait, enfin pas la semaine dernière, l'émission dernière, on parlait du film de Marjane Satrapi, The Voices.
Absolument.
Et tu parlais de cette facilité qu'ont les auteurs de bande dessinée en fait à aller vers la réalisation de cinéma parce qu'ils sont déjà habitués à beaucoup découper leur action. Toi, je sais que Jean, que tu fais aussi de la bande dessinée à côté. Est-ce que justement,
c'est
pas moi.
Un peu. Hein.
C'est un peu bien. C'est Pique-Nique Douille ou. C'est toi le réalisateur ou
bah on l'a fait ensemble ça. Mais j'ai fait le storyboard.
Bah, c'est marrant parce qu'il y a un côté très BD je trouve.
Ah bah ouais c'est cartoonesque en tout cas.
Oui oui oui.
Complètement. Effectivement je pense que c'est pas anodin que les auteurs de bandes dessinées deviennent pas forcément de bons cinéastes mais des cinéastes quand même. C'est quand même deux façons extrêmement similaires de raconter des histoires et de les découper. À cela près que la notion du temps n'est pas du tout gérée de la même façon.
D'accord.
Le cadre et les plans en BD ou en cinéma, c'est deux métiers complètement différents. Le cinéma, c'est du temps imposé. La BD, c'est comme un bouquin. Les gens peuvent prendre du temps, ils peuvent mettre le temps qu'ils veulent entre les cases, ils peuvent regarder une case 1000 ans ou pas. En cinéma, on est un peu pris au piège. Enfin, une espèce de droite qu'on peut tracer du théâtre vers la BD en passant par le cinéma en termes de prise d'otage. La BD, on est beaucoup plus libre de prendre son temps, le cinéma moins, ben, le théâtre pas du tout. Le théâtre, on est vraiment pris en otage, je trouve.
D'accord. Je m'étendrai pas sur ce sujet parce que je suis pas très très fan de théâtre, mais.
Non, c'est pourri. Non, je plaisante, c'est vachement bien.
Et toi, du coup, Romain, donc cadreur dans Super 5, j'ai vu que vous, sur quelques photos là, vous avez sur votre Facebook, vous avez l'air d'avoir du matériel assez sympathique. En tout cas, moi, c'est une des choses qui m'a plu dans votre film et dans la plupart de vos réalisations, c'est qu'il y a un ensemble très très cohérent. Donc, c'est à la fois très drôle. très bien monté, très bien découpé et aussi très bien filmé quoi. C'est ça qui fait vraiment l'intérêt de votre film. Pour reprendre un peu le principe, les quelques films du Nikon Film Festival. Souvent dans certains films, il y a un peu un déséquilibre. Où, et non, chez vous, en fait, je trouve qu'il y a une espèce de bonne symbiose. Si vous arrivez à magnifier à peu près tout. Donc voilà, je voulais justement savoir comment vous, avec quel type d'appareil vous travaillez.
Alors, pour le matériel, en fait, chez Super 5, on a pas de matos, on n'a rien du tout. Et c'est vrai qu'à chaque tournage, justement, on se fait prêter du matériel ou on le loue. Voilà.
On l'a loué une fois.
La seule fois où on a eu assez de budget pour pouvoir louer du matériel. Et c'est vrai que pour par exemple Picnic Douille, donc le dernier film qu'on a fait, on a eu la chance d'avoir des copains de chez French Toast qui nous ont prêté tout leur matos. Donc on leur dit un grand merci parce que sans eux le film
c'est un peu eux ils ont un peu
oui,
produit
voilà,
le film,
c'est un peu
en fait.
Les producteurs du film ouais, on peut ouais. dire ça ouais.
On va leur dire, ça leur fera plaisir.
Bah ouais, carrément. En plus ils nous voilà, on les connaît un petit peu. Vous êtes ensemble à TCRM Blida, c'est ça, vous
avez tout à fait ouais.
C'est ça,
vous êtes en colocation donc
et c'est avec eux qu'on fait les films, bah tous les films de présentation de Blida voilà. On les fait à 7 têtes du coup avec nous plus eux et c'est vrai qu'on est amené à travailler de plus en plus souvent ensemble du fait qu'on est à 50 mètres maintenant l'un de l'autre et qu'ils sont extrêmement sympathiques. Ils sont beaux en plus. Non vraiment c'est cool, c'est une bonne rencontre parce qu'on peut en plus de profiter de leur matériel gratos. Ils sont sympas ouais, non c'est cool.
Carrément. Bah du coup ça me lance sur la prochaine question. Du coup comment vous voyez votre avenir, parce que là du coup vous parlez de films plutôt institutionnels on va dire, j'imagine que c'est des commandes.
Pour la ouais
une sorte de
ouais,
commande en tout cas.
Ouais c'est ça, c'est des films institutionnels complètement.
Enfin, c'est de la commande. Chose, ouais, c'est, ouais. De la, c'est vraiment la commande.
Bah le truc de Blida ouais.
D'accord. Et donc vous deux par exemple vous destinez à quoi? Enfin j'imagine que c'est un petit peu ce que vous rêvez de faire dans votre vie. Est-ce que vous comptez vous orienter vers la réalisation de fiction ou plutôt justement du film institutionnel? Est-ce que vous avez déjà des pistes de ce côté-là?
Bah nous c'est vraiment la fiction qui nous intéresse.
Ouais. Ouais. Fiction, violence gratuite, un peu de cul et tout ça quoi.
Après la vie. Il faut faire un peu d'institutionnel pour gagner de l'argent parce que ouais, avec la fiction c'est pas facile.
En plus vous avez fait le court métrage de présentation de court métrage si on peut dire de présentation de Bout d'essai, c'était quand même très réussi ça.
Ah bah d'autres super copains qu'on salue d'ailleurs.
Ouais.
Non effectivement c'est notre première commande institutionnelle. Non c'était Hiatus la première qu'on a faite. Ouais. C'était pour une revue de Nancy qu'on avait fait.
On avait très bonne revue. Les...
Ouais
très
bien
d'ailleurs.
D'ailleurs dans le dernier j'ai dessiné, faut l'acheter. Donc pour Hiatus, puis Bout d'essai effectivement, et là Bout d'essai c'était vraiment extrêmement confortable de bosser avec eux, enfin de bosser pour eux mais avec eux parce que
c'est
vraiment,
des colocataires aussi.
C'est des colocataires aussi, c'est aussi Sandrine donc de Bout d'essai qu'on a rencontré quand on était au Beaux-Arts, c'est une copine de longue date maintenant. Ils ont été extrêmement présents au tournage, vachement ouverts. On avait un peu tous les droits tant qu'on respectait leur fil leur message. On n'avait pas dire n'importe quoi. Pour Hiatus on avait le droit de dire n'importe quoi, mais pas pour Bout d'essai. Et ils ont vraiment accompagné le tournage, ils ont vraiment produit aussi. Je veux dire, on a super bien mangé, ça c'est Luc Dufresne a fait des super courses. Non on était on a vraiment bossé dans de bonnes conditions. Du coup je pense que ça s'en est ressorti aussi parce que Luc dont le métier c'est la lumière et la photo, il nous a fait des belles lumières, on a vraiment pu bien travailler grâce à eux quoi. C'était chouette.
Carrément. Et du coup, ma dernière petite question là pour embrayer sur la suite. Parmi les commentaires là de votre film, donc Je suis Picnic Douille, je vous invite toujours à les regarder, même si les votes sont clôturés. On a surtout mis en avant la qualité de la musique en fait. Donc, est-ce que vous pourriez me parler un peu de ce morceau qui va être diffusé tout à l'heure par Étienne, s'il écoute. Donc voilà, est-ce que vous pourriez me parler un peu de Étienne Duval, le compositeur?
Alors Étienne Duval, génie. C'est un vrai génie.
Un grand génie, ouais.
Ouais, il touche à tout, il est extrêmement investi dans tout un tas de trucs. Il est architecte, c'est son vrai métier pour gagner sa vie.
Une couverture, ça je pense.
C'est une couverture.
Il n'est pas vraiment architecte, mais il fait des années, mais.
Il fait de la musique, il est très très bon musicien, il fait du scratch, mais vraiment comme un dieu, c'est fou. Il fait un peu d'illustration aussi d'ailleurs, et c'est vachement bien. Enfin bref, Étienne qui est un génie et un très bon copain, on l'a embarqué avec nous. Vraiment, d'abord parce que c'est un copain, qu'on avait besoin de quelqu'un pour prendre le son du film. On était un peu coincé, on a fait une annonce sur Facebook et puis lui a dit ouais, moi je veux bien venir avec vous.
Ouais, en sachant que c'était le soir du Nouvel An.
On tournait le soir du Nouvel An et du coup on est
dans la Haute-Marne.
En Haute-Marne, exactement. L'Eldorado,
il faut préciser.
Les conditions de tournage.
Ouais, les conditions de tournage et la. Enfin bref, c'était génial. Et Étienne a dit ouais, moi je veux venir, c'est marrant. Et puis comme ça au moins je ferai un Nouvel An avec les copains quoi. Et donc c'était génial, c'était inespéré parce qu'on a réussi à avoir notre très bon copain avec nous au Nouvel An. Et en plus de ça, lui qui est musicien et nous qui avions vraiment envie d'une musique assez marquée pour le film,
Au début, on voulait mettre Freed From Desire de Gala. Mais parce qu'on voulait absolument que l'action se passe dans les années 90, mais on a essayé avec ça, ça marchait très bien, mais ça marchait encore mieux avec un morceau qu'un autre copain nous a conseillé, Thomas Clemente ou Paul Fleischner.
Paul Fleischner.
Paul Fleischner, on le salue aussi, qui est dans l'association Super 5. Et donc Paul Fleischner nous a conseillé, il a dit, écoutez, Free From Desire, c'est bien parce que ça localise les années 90, mais le mec dans la voiture, il écoute pas ça. Lui, il écoute la Felicita. Et la Felicita de Albano et Ramina Power, qui est donc un morceau absolument magistral, qu'on pourrait passer aussi, mais bon, ouais. Et a été notre musique de film. Et vu qu'on voulait absolument quand même avoir les droits du morceau, on s'est dit, bah, on va faire composer un autre morceau. Ouais. Donc on a demandé à Étienne de nous faire un truc à la sauce de Ramina Power et Albano, enfin de Felicita. Et au final, il a fait un vrai remix de ça, parce que c'est clairement le même morceau, mais sauf qu'il chante en allemand. Il a réécrit les paroles parce que ça parle, enfin les paroles parlent vraiment du court-métrage. Il a vraiment fait un truc sur mesure. Il a chanté lui-même, donc toutes les voix qu'on entend sont les siennes. L'arrangement, il a tout fait tout seul dans sa chambre. Donc c'est, enfin on rebossera beaucoup avec lui, je pense, parce qu'en plus c'est un bon copain, en plus d'être un génie.
Ça marche. En tout cas, nous, on vous invite à rester avec nous pour toute l'émission. Et du coup, on va écouter ce fameux morceau d'Étienne Duval, dont j'ai pas retenu le nom. Je sais pas s'il a un nom, ce morceau.
Bah, je crois que c'est Schnick Schnack Schnook.
Schnick Schnack Schnook.
Ça veut dire, en fait, ça veut dire pierre ciseaux de feuille. Enfin, ça veut dire Shifumi en allemand.
Ouais, Shifumi en allemand.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Un truc du genre.
Un truc du genre.
Nickdouille, Thomas, c'est à toi d'enchaîner. Donc nous allons, dans la deuxième partie de cette émission, aborder l'actualité cinéma des deux semaines à venir. Et donc nous allons commencer avec les sorties DVD qui sortent à partir du 22 février. Donc Thomas, c'est toi qui commence. Donc je vais l'annoncer. Donc c'est le film qui s'appelle Furry de David Ayer. Est-ce que tiens, du coup, tu peux nous balancer la...
Merci.
Est-ce que tu peux nous balancer un petit extrait de la bande annonce, parce qu'on a décidé de rendre cette émission un peu plus vivante. Donc voilà.
Combien ils sont?
300. Le char est bousillé.
On s'est jamais débiné. C'est pas aujourd'hui qu'on va s'y mettre. Je vais tenir ce carrefour.
Mais des deuils.
Ici c'est chez moi.
Moi je reste avec vous.
Allume-le.
Donc Fury, donc qui sort en DVD bientôt, ben semaine 9. Donc c'est un film de David Ayer qui est connu pour Sabotage et ce qui était une purge avec Schwarzenegger, son dernier film qui est sorti l'année dernière, et d'autres trucs que j'ai pas vu et qui est surtout connu pour être scénariste de Training Day, U571 ou encore Fast and Furious. Enfin, ça n'augurait pas vraiment du bon. C'est avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, qui était plus connu pour être Percy Jackson, Malcolm Peña et John Bernthal, qui jouait dans Walking Dead. Donc, en gros, le pitch, c'est à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, pendant la campagne d'Allemagne. On suit un équipage de tanks, donc plutôt chevronné, qui est dirigé par Brad Pitt, et qui, suite à la mort d'un de leurs équipiers, doit accueillir à son bord un nouveau. il est pas vraiment préparé à ça, et ils partent en mission derrière les lignes ennemies. Donc, d'abord, ce qui m'a plutôt marqué, c'est le contexte. La campagne d'Allemagne, c'est quelque chose que je ne crois pas avoir été beaucoup traité au cinéma. Si vous avez des idées de films qui parlent de ça, je suis preneur.
Là, comme ça, non.
Je pense que Peyton devait en parler, vu que ce général a fait la campagne d'Allemagne, mais bon, je vous avoue que j'ai le Blu-ray, il faut que je le regarde. Bon, là, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sympa de voir là, en Allemagne, et de voir ce qui a pu se passer, même si on voit pas grand-chose. Ensuite, je vais surtout m'attarder sur la forme. C'est que bah, je m'attendais pas vraiment à ça, mais ça a vraiment de la gueule. C'est super shooté, c'est super bien shooté. C'est beau, les décors, la reconstitution, les champs de bataille. Enfin, c'est super crade. Et c'est vraiment la guerre. Enfin, moi, je m'attends à ça d'un film de guerre. Et c'est absolument pas romancé. Ils se payent le luxe même dans leur constitution de tourner avec des vrais chars dont il me semble, j'ai lu en tout cas le dernier char Tigre, donc un char allemand en état de marche qui sort tout droit d'un musée. Et en plus c'est fait en 35 mm, c'est pas pour bouder le plaisir.
Non mais carrément.
En ce moment. Surtout en ce moment.
C'est un film en 35 mm, il est filmé en pellicule celui-là ?
Ouais.
Ouais, il y a quelques réalisateurs en ce moment qui soutiennent la pellicule, hein, ouais, notamment Tarantino, qui a même ouvert un cinéma.
Mais venant d'un film comme ça, je m'y attendais pas forcément, quoi. C'est surtout. Donc c'est. Voilà, c'est beau. La photo est belle, c'est vraiment, vraiment bien, bien shooté.
Ouais. Thomas, je suis désolé, je vois Valentin qui veut absolument intervenir.
Mais il a pas été choisi par la scène de viol, parce que la dernière fois que je parlais. Je me suis fait bâcher sur la scène de viol.
Mais
c'est
qu'un enfant doublé.
Il la viole pas vraiment, étant donné que c'est elle qui le tire.
Merci, on est d'accord.
Ah, moi je suis d'accord.
Ah, bah voilà.
Bon, d'ailleurs, il y a une petite incohérence à ce moment-là, c'est qu'elle comprend pas l'anglais, et d'un coup, elle comprend l'anglais. Et puis après, elle comprend plus l'anglais. Enfin bref.
Mais l'amour est une langue universelle. Exactement.
C'est ça. Enfin, faut dire que le piano.
C'est une chanson de Jean-Louis Zayas, non ? Oui, c'était juste pour repréciser le contexte. Valentin, toi, t'avais été invité par le Cercle, donc ouais, l'émission de cinéphile de Canal Plus,
où
tu avais dû parler de ce film.
J'avais dû parler de ce film, et donc j'avais dit que.
Qu'ils étaient vieux déjà.
Oui, déjà, c'est vrai en même temps. Non, mais j'avais surtout dit que ce qui me choquait le plus dans la scène de viol, c'était Brad Pitt et la mère, enfin allemande, qui restait seule dans la cuisine, enfin dans la salle à manger, pendant que les deux autres étaient dans la chambre. Moi, ça me choquait beaucoup plus que ce qui se passait dans la chambre, et on m'avait dit que j'étais un enfant doublé d'un mufle, et que c'était voilà une scène de viol horrible. Enfin, on voit rien du tout, on n'entend rien d'ailleurs.
Non, puis elle a eu l'air d'aimer ça, et puis lui, il ressort amoureux, enfin tout va bien.
Ouais, quoi. Non, mais, voilà.
Ah, c'est vraiment une émission sur l'amour, hein. Merci.
N'est-ce pas ?
Mais le viol, c'est. Non, non pardon.
Le buzzer, attention.
C'était nécessaire.
Ça, c'est un viol, ça. Oh. Ça a été repris d'un viol.
Donc, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le film est violent, en fait, c'est vraiment sans fioritures, c'est super sec, les personnages, ils sont tous sales, enfin, je veux dire, on les sent puer à travers l'écran. C'est vraiment pas une guerre romancée, on n'a pas envie d'y être, on va vraiment dans l'horreur de la guerre, c'est très gore. Ailleurs, il prend le parti pris du réalisme. Et ben, jusqu'au final, hélas, qui est graphique mais complètement con. Enfin, je vais revenir. ce qui m'a plu outre ça, c'est vraiment toutes les scènes qui sont tout ce qui peut être combat de tank. Donc, il y en a deux ou trois dans le film qui sont filmées vraiment comme des batailles navales. C'est assez impressionnant de réussir à rendre ça passionnant parce que ça reste des gros chars. Ça avance à deux à l'heure. Mais c'est assez bien shooté pour qu'on se perd pas, on comprend ce qui se passe sur le champ de bataille, on comprend les stratégies, et même quand on est à l'intérieur du tank, pendant ces scènes-là, on comprend sans forcément qu'ils aient besoin d'expliquer, on comprend le rôle de chacun dans un espace restreint. C'est vraiment bien foutu. Après, le seul point noir de ce genre de scène, c'est que bon, on est censé être en vase clos dans le tank américain, et que de temps en temps, on entend désordre allemand, et pas tous, Et ça, c'est un peu merdique, c'est un peu... Ben, je sais pas pourquoi il a fait ça, d'ailleurs. Ça passe pas super bien. Ensuite, les acteurs, bah, les 5 acteurs principaux, ils font vraiment le job. En soi, ils font à mon avis ce qu'on leur demande. Ils sont plutôt bons. Surtout Shia LaBeouf, qui contre toute attente, mais bon, je pense que la
on le voit pas, mais Valentin. Hein.
Vous êtes méchant avec lui. Moi, je le détestais. Maintenant, je l'adore.
Bah, depuis ce film-là, j'espère qu'il va garder la moustache, parce qu'en toute honnêteté, je pense que c'est la moustache qui le fait le bien jouer.
Non, bah, j'ai vu
un truc, ça lui cache. Il a la moustache. Et il a tout un tas de jeux de regard, notamment pendant la scène où juste après le viol, où ils arrivent.
Le viol? Quel viol?
Ouais, tu vois.
La scène d'amour. La scène d'amour.
Il est la scène d'amour. Et il a tout un tas de jeux de regard avec Brad Pitt. Il a pas besoin de causer. Enfin, c'est. Moi, je trouve que c'est une belle prestation. Enfin, apparemment, il a été très très loin. Il a été très très loin. Il a été jusqu'à plus se laver pour être en condition. Enfin, tout le monde
il
le détestait sur le tournage.
En Allemagne. Ouais.
Il se dit catholique alors qu'il n'était pas du tout croyant avant le tournage et que son personnage est lui-même catholique.
Mais ouais, c'est une grenouille de bénite.
Il dit beaucoup de conneries aussi. Hein.
Mais durant le tournage, il s'est pas lavé, je crois, pendant le tournage.
Mais pendant le tournage, ouais, apparemment, ses maquillages ne convenaient pas. Donc s'est arraché une dent.
Il s'est mis à fond dedans, quoi.
Mais bon, tout n'est pas forcément positif là-dedans. C'est que les gros points négatifs, c'est que l'écriture, elle est super lourde. On passe par tous les clichés du film américain, donc on a tout. Je veux dire, dans les 5, t'as le chef badass, la grenouille de bénitier, le redneck qui est complètement débile, le mexicain de service. Et c'est un concours de grosses burnes permanent. C'est à celui-là qu'il y aura les plus grosses. Ouais, mais là, quand même...
Excuse-moi, tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on s'attend à voir quand on voit un film de guerre. Et moi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on espère. Moi, c'est ce que j'espérais
voir.
C'est
ce que j'espère aussi. Oui.
C'est ce que j'espérais voir. Un gros film, grosses couilles, avec Brad Pitt qui les porte en bandoulière et qui
écrase
tout,
des tanks.
Avec. Ouais, mais là c'est vraiment trop énorme. Enfin,
oui, bien sûr. Oui,
on en est. C'est que tu te dis, si les 5 ils étaient dans une Jeep, la Jeep, elle aurait pas assez de couple pour les transporter tellement leurs couilles sont lourdes.
Ah, c'est clair.
N'oubliez pas que c'est vraiment un problème, les gars.
Mais oui, on parle de couilles et de viol.
Mais les couilles, c'est un peu
le scène d'amour.
C'est un peu ce qui sert à l'amour.
Ah, la vache.
Donc bon, je vous le donne en mille. Qui a les plus grosses couilles?
Brad Pitt.
Bah oui, il est producteur.
Dans l'amour, les couilles, ça va souvent avec le portefeuille. Hein.
C'est vrai.
Je
suis pas d'accord.
Là-dedans, il reste donc le cinquième qui est Percy Jackson. J'ai déjà oublié son nom pour tout dire. Donc lui, il arrive là, il est censé être dactylo. Et finalement, on le fout dans un char. Donc et il passe tout le film pour dire, il se passe sur à peu près 24 heures, sur une journée. Et donc il est au début à ne vouloir tuer personne parce que tuer c'est pas bien et c'est pas catholique, grosso merdo. Et il finit le film en désinguant des dizaines et des dizaines de nazis à la mitrailleuse en gueulant « Fucking nazis !» Enfin c'est... Je sais pas, la progression est vraiment trop trop rapide.
Combien de temps il dure le film ?
2h15. Donc... Voilà, ça va pas vraiment. Les scènes, pareil, la musique en soi, elle est bien faite. C'est une bonne musique de film. Par contre, toutes les scènes dramatiques, et vu ce qui se passe à l'écran, c'est bête, mais sont forcément appuyées par des violons. C'est super chiant, à mon sens. Mais le plus gros point noir, parce qu'au final, tout ça pourrait vraiment passer, mais le vrai point noir, c'est toute la scène finale qui dure au moins 20 ou 25 minutes. Où... d'un coup, les Américains ils deviennent presque indestructibles. Enfin, ils feraient passer le Rambo de Rambo 3 pour une petite bite, ce qui n'était pas gagné. Surtout Brad Pitt parce qu'il a les plus grosses. Et bon, je ne veux pas déflorer le film, je vous laisse voir. Et surtout la dernière image, une des dernières images du film est une des plus cons qu'on ait pu voir dans des films de guerre. Enfin, voilà.
Okay,
donc le bilan est en soi, je trouve, plutôt positif si on arrête le film à 1h50.
Très bien, merci Thomas. Jean, non, je te vois.
Bah en fait j'ai peur de spoiler comme on dit, mais faut le dernier plan vertical là.
Non, quand d'un coup les SS ils deviennent, bah un SS devient gentil.
Ah,
ah j'adore oui, les Allemands. Fin,
oui. À part c'est ça, vous voulez pas spoiler.
Hein. Oh, mais ça va. Hein.
On s'en fout. Si les gens ils m'ont écouté, ils arrêtent à 45. Donc c'est autant qu'on leur passe la main.
Ça marche, donc ça sort chez Sony. Voilà. Du coup, on enchaîne, Étienne, avec le dernier film d'Alexandre Aja, qui était présent à Gérard Armé, dont on parlait la semaine dernière. C'est Horns.
De quoi j'ai l'air? Tu remarques rien d'inhabituel?
Tu parles des corps?
Qu'est-ce que c'est?
Vous savez ce que je pense qu'il faut faire? Je crois que je vais me prendre une dose d'oxycontine. On va se faire une petite ligne.
Tout le monde devient dingue dans cette ville. C'est à cause de moi et ces putains de corps.
Tu as tué cette jeune fille innocente. Maintenant, le diable te réclame.
Je ne l'ai pas tué, mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens me disent des trucs que je veux pas entendre.
Donc voilà, c'était l'extrait de la bande-annonce de Horns, les cornes. Donc je me tire un peu une balle dans le pied en utilisant la bande-annonce en VF, qui est absolument affreuse, que je n'avais pas vue avant. Donc voilà, rien que l'idée de reprendre la voix d'Harry Potter, ce qui en soi était logique. Décrédibilise un tout petit
il
peu.
A mué.
Ouais. Mais c'était logique.
C'est, ouais, imagine les Bee Gees qui ont mué, ils peuvent plus chanter. Là, ouais. C'est pareil.
C'est exactement ça. Quoi. Je trouve que ça décrédibilise un petit peu le film. Donc voilà. Donc, comment défendre l'indéfendable, pardon. Ce film, malheureusement, a, je crois, reçu des critiques plutôt négatives de la part de beaucoup de gens, de la part des fans du roman, puisqu'il s'agit d'une adaptation d'un roman de Joe Hill, qui est le fils de Stephen King. Chose que je ne savais pas d'ailleurs avant d'avoir vu le film. C'est un roman qui n'est pas très connu en France, mais qui est vraiment culte aux États-Unis. Donc, je crois que les gens n'ont pas trop aimé l'adaptation par Alexandre Aja. Et surtout, voilà, parce que c'est un film qui est la plupart du temps assez décrié dans, voilà, considéré un peu comme un nanar. Donc voilà, comment défendre ce film-là, surtout quand certains mangent des cacahuètes en même temps. Du coup, je sais pas, Thomas, est-ce que tu veux lancer les festivités?
Ben, je pourrais pas le casser complètement. En fait, c'est un film sur lequel je suis mitigé. Ben, pour tout dire, ça a été, je l'ai regardé, je l'ai revu hier soir un peu par devoir pour l'émission. Je l'avais vu à la sortie, je l'avais complètement oublié. Je me suis dit merde, si j'écris s'il faut que j'en cause, faut au moins que je le revoie. Donc je l'ai revu hier. Donc comment défendre ça? Je trouve que c'est bien en dessous que certaines choses qu'Alexandre Aja a fait.
Oui, bien sûr.
Notamment sa période française, en tout cas.
Haute tension. Hein.
Surtout haute tension, il faut dire. Mais j'ai trouvé les deux premiers tiers du film plutôt bons. En fait, l'histoire, elle est pas dégueu, c'est pas... Enfin, voilà, ça se laisse voir, c'est plutôt original. Enfin, le mec qui a les cornes qui poussent... Ça m'a plu. Et j'ai surtout bien aimé la reconstitution de la petite ville. Elle est un peu crade. Tous les personnages secondaires qui tournent autour sont très, bon, aussi clichés, mais finalement, ça paraît dans une espèce d'Americana bien nord-ouest. Enfin, moi, ça m'a... Quelque part, ça m'a plu. C'est vraiment le dernier tiers qui m'a... Je l'ai repassé en trois fois parce que je m'endormais, enfin, puis j'ai trouvé ça super nul. Et voilà, il pousse vraiment les références bibliques trop loin, surtout à la fin, et ça part dans n'importe quoi. Voilà, donc j'ai pas envie de cracher dessus parce que je me suis pas fait chier, mais je sais très bien que demain on m'en parle et je saurai plus.
D'accord. Et toi, Valentin, du coup, je crois que t'as... Alors pas
moi, aimé ça va aller, ça va... Non, ça va aller vite, ça va être exactement pareil que Thomas. J'aime énormément la première partie. C'est du Aja tout craché, quoi. Moi, je pensais à tous ces autres films américains, pour le coup, où c'était en même temps du fantastique, et en même temps, c'était drôle, et c'était très, très bien fait. Enfin, il y a des scènes géniales, la scène où il va chez le médecin pour lui demander où sont les grottes. Enfin, voilà, c'est excellent, quoi.
Quand il découvre son pouvoir, c'est vraiment, vraiment
sympa.
Oui,
non, mais c'est génial quand il découvre qu'il entend des voix. Enfin, je trouve ça à mourir de rire. Puis après, ben voilà, ça part trop loin, quoi. La fin, on la sentait venir déjà à 1000 km, et puis en plus,
elle est ridicule, de toute façon.
Mais il y a un très bon point, c'est la musique qui est géniale. La BO est géniale.
Ah, mais ça sauve pas un film.
Sauf le morceau qu'on va vous passer après, puisque on a choisi. Enfin,
non,
on
j'ai
a
choisi. Choisi.
C'est Thomas qui a choisi un morceau.
Qui est le meilleur
de
morceau de la BO.
Qui est le pire morceau de la BO, parce qu'il y avait Heroes de David Bowie, et il a pas choisi celui-là.
Ni voilà. Yes, désolé.
Ouais. C'est fini.
Très bien. Vous l'avez vu ou pas, les Super 5 là ?
Affligeant.
Ouais, ouais.
Très, je suis très, très fan de Alexandre Aja. Enfin, et puis, on pourrait en parler toute la soirée.
Ah oui, non, non, mais.
Mais, et du coup, j'ai trouvé que c'était une trahison sans nom. Déjà, foutre Harry Potter, ça m'a gonflé. Parce que
moi je l'ai bien aimé. Écoute, non, je l'avais laissé sur la dame en noir où il avait la barbe faite au fond de teint. Et là, merde, on dirait un bonhomme.
Pour sa défense, c'est une critique absolument subjective. Je déteste cet acteur, mais je dis pas qu'il est mauvais. Ensuite, ouais, après le côté biblique, moi j'aurais voulu à la limite que ce soit complètement poussé à fond, que ce soit vraiment de ça que ça parle. En mode This is the end de, avec Gianfranco, là, je sais pas si vous avez vu cette espèce de chef-d'œuvre.
Moi j'ai beaucoup aimé aussi.
Moi j'ai adoré quoi.
Pareil.
Enfin je veux dire, faut aller à fond. Et Horn, j'ai une espèce de timidité dans le truc, un scénario qui a ni queue ni tête, une fin bâclée comme tout. Je me suis vraiment foutu en rogne devant. Alors que le début augurait quelque chose de bien quoi. Voilà.
Eh ben très bien, on va enchaîner avec un autre film fantastique qui sortira le 8, pardon, ça sort le 25 février chez Metropolitan, Horns. Et le même jour sort chez Wildside At the Devil's Door de Nicholas McCarthy.
Tout a commencé avec un jeune homme. Elle m'a dit qu'il l'avait persuadé de vendre son âme.
D'accord, mais je te l'ai dit, t'es obligé de jouer seul. Et choisis-en un. Il t'a choisi. Tu devras marcher jusqu'à la croisée des chemins et tu devras dire ton nom.
Anna, pourquoi ?
Le jour où il viendra, il t'appellera par ton nom.
Donc, At the Devil's Door, donc c'est, il sort effectivement directement en DVD. Je pense même pas qu'il devait passer par la case au cinéma. Moi, c'est un film que j'ai découvert au festival de Gérard May. Je sais pas ceux qui ont été. Vous l'avez vu ou pas ?
Je l'avais pas vu, non.
Absolument pas.
D'accord.
Non.
Personne ne l'a vu, donc voilà, je peux le défendre, je peux dire tout ce que je veux dessus. Je suis allé voir ce film parce que notre ami Florian, que nous saluons d'ailleurs, on avait dit beaucoup de bien, donc voilà, c'est ce qui m'a un peu poussé à aller voir ce film-là. Pour le pitch, en fait, c'est une jeune femme qui est agent immobilier qui doit se charger de vendre une maison dans laquelle a eu lieu 25 ans auparavant un drame, enfin une espèce de possession en fait d'une jeune femme qu'elle retrouve sous la forme d'un fantôme qui va venir la hanter.
C'est original.
Ouais, effectivement. Alors là, clairement, ce film n'a rien inventé et au contraire, justement, je trouve c'est le très bon point positif de ce film-là, outre ses défauts parce qu'il en a quelques-uns. C'est moi ce que j'ai aimé dans ce film, c'est son côté audacieux. C'est-à-dire que sur des thématiques rabâchées des dizaines et des dizaines, voire des centaines de fois au cinéma, il ose justement s'aventurer dans des choses assez audacieuses, notamment dans la narration. On ne suit pas qu'un seul personnage principal, contrairement à ce que pourrait faire préfigurer la bande-annonce. Comme c'est une histoire de possession, un peu à l'image de It Follows, voilà le diable, parce que voilà, on va pas s'en cacher, c'est ça. C'est le diable en fait a besoin d'un hôte. Il a surtout besoin d'une maison, c'est un peu le pitch du film. Il a besoin d'un hôte, et du coup il passe d'hôte en hôte à travers le film, et donc il passe de personnage en personnage. Et donc voilà, ça c'est, je pense, la meilleure qualité de ce film-là, c'est d'avoir un tout petit peu contourné les poncifs du genre. Et donc voilà, et donc c'est un film qui, moi, m'a tenu en haleine du début à la fin, contrairement à It Follows dont je parlais la dernière fois. Voilà, dès la scène d'introduction, voilà, il y a une espèce d'étrangeté dans le film, une ambiance assez particulière, et en fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre à la séquence d'après. Donc voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a plu dans le film. Les gens qui ont bien aimé, enfin qui aiment beaucoup le genre des films de fantômes japonais, voilà, s'y retrouveront un petit peu. Voilà, il y a ces influences là. Donc voilà, en tout cas moi je vous le conseille. Si vous avez, je pense qu'il ne sortira pas au cinéma, l'occasion de récupérer en DVD, At the Devil's Door. On va enchaîner très vite fait avec les sorties cinéma de cette même semaine, qui seront très rapides puisque on n'a pas trouvé grand chose. Je crois qu'on a trouvé qu'un film. Il y a que Valentin qui s'est décidé à chroniquer un film pour la semaine du 25 février.
Et quel film ?
C'est le seul qui bosse.
Et quel film ?
Donc voilà, donc c'est Hungry Hearts, qui contrairement à son titre est un film italien apparemment, mais tourné à New York, c'est ça ?
Tourné à New York, absolument.
Donc voilà, donc Étienne, si tu peux nous balancer la bande annonce.
Beautiful little angels. Where are you going? I don't like this place. This is not a good place to be.
Just give us some more time, please.
You have to get help.
We're all she has in the world. Just us. Just the two of us.
Alors oui, je disais, et quel film tout à l'heure, parce que Hungry Heart, c'est pour moi en tout cas une des grosses claques hein, de l'année. Enfin, je l'ai vu l'année dernière, du coup pour moi c'était une des grosses claques de l'année dernière, mais en tout cas je pense que ça va être une des grosses claques de cette année-là. Soit on va adorer, soit on va détester, parce que c'est très 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 spécial. C'est un film de Saverio Costanzo, qui a déjà fait un film qui était sorti en France il y a... Je crois en 2011, ça s'appelait La solitude des nombres premiers. C'était un drame familial qui était tourné comme un giallo. C'était très très bizarre. Mais c'était très très beau à regarder. J'ai adoré aussi. Et alors celui-ci, donc c'est un film, comme tu disais tout à l'heure, Aurélien, c'est un film italien qui est tourné à New York. Avec donc une actrice italienne qui est Alba Rohrwacher, dont Charlotte avait parlé dans la dernière émission à l'occasion de la sortie des Merveilles. Et Adam Driver, dont on avait aussi parlé dans la dernière émission à l'occasion de la sortie de je ne sais plus quoi. Mais donc voilà, donc c'est la rencontre. Enfin, en gros, c'est l'histoire d'amour et qui va petit à petit se désintégrer entre donc une Italienne qui vit à New York et un New-Yorkais pur jus. Donc voilà, les deux vivent ensemble et après la naissance de leur enfant, le couple va se désintégrer. Parce que la femme est très très proche de l'enfant, veut à tout prix le protéger et ça devient presque flippant quoi. Et l'homme qui a plus les pieds sur terre va essayer de éloigner sa femme de la gamine. Et donc ben, comme pour La solitude des nombres premiers, c'est tourné comme un giallo, comme un film avec des choix de cadrage très très étranges, une musique qui donne une atmosphère très bizarre. On pense forcément aux bandes originales de Dario Argento.
D'accord.
Voilà, le donc c'est en plus ce que je trouve génial, c'est que je suis allé voir ce film à l'occasion du festival du film italien de Villerue.
Ouais.
Je savais pas du tout de quoi ça parlait, on m'avait dit ça va être un des gros trucs de l'année prochaine, je savais pas du tout ce que c'était. Je suis rentré dans la salle et le film a commencé, c'est une scène qui dure à peu près je sais pas 5 ou 6 minutes, qui est filmée en plan séquence et en plan fixe, où c'est les deux qui se rencontrent dans les toilettes d'un restaurant chinois.
Oui, j'ai vu, effectivement.
Et les deux en fait sont tour à tour enfermé dans les toilettes et c'est absolument hilarant, on sait pas du tout à quoi s'attendre et après ça part c'est un drame mais c'est filmé comme un thriller très très flippant, on est vraiment ouais proche du film fantastique quoi. Donc ouais, c'est un film qui est absolument à voir, je pense qu'il sera pas distribué malheureusement dans beaucoup de salles et qui est un peu bizarre mais en tout cas voilà, pour l'amour du cinéma, il faut aller voir.
Ça marche. Donc vérifiez s'il sort au Caméo, j'imagine, je pense.
J'en ai aucune idée, mais j'espère que oui, j'espère vraiment. Ouais.
Donc allez sur leur site. Donc on va faire une toute petite pause musicale avec le morceau dont on parlait tout à l'heure, des Dead Weather. Il s'appelle 60 Feet Tall et donc il est issu de la bande originale du film Horns. À tout de suite.
You got my attention. I
Sans transition aucune, nous allons passer d'un riff de guitare complètement fou à l'univers encore plus fou de Noboru Higuchi, réalisateur un peu taré du Japon, dont va nous parler Valentin, à l'occasion de la sortie de 3 films.
De 5 films.
5 films, ah.
Ouais.
D'accord.
Oui, ça augmente, c'est l'inflation.
Alors, dis-nous tout.
Oui, écoute, il y a 5 films de Noboru Higuchi qui sortent le 2 mars chez Elephant Films. En DVD et à vérifier, mais je crois qu'il sort également en Blu-ray. Alors je vais pas m'étaler dessus, je pense que les titres disent tout.
D'accord, et justement, alors j'ai complètement foiré mon lancement, mais il fallait lancer la bande-annonce de Dead Sushi juste pour.
Ouais, mettre... t'as foiré le mien aussi parce que les titres étaient assez marrants.
C'était trop nul là.
Il est où le buzzer? Merci Jean.
Tu briques mes couilles.
Bon, du pardon, coup, pas de lancement.
Donc
oui, je disais que les 5 titres parlent d'eux-mêmes, puisque les 5 films s'appellent Zombie Ass, Dead Sushi, Samurai Princess, Tommy Unlimited et Deadball. Oh. Donc voilà, c'est gore, c'est très fun, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est. Faut avoir un peu bu avant, ouais, mais c'est très 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 fun.
C'est complètement. T'es pas passé à Gérard May l'année d'avant.
T'es passé à Gérard May il y a 2 ans.
Ouais, pendant une nuit.
Pendant
il
la
semble.
Nuit fantastique, ouais, c'était le premier film de la nuit fantastique.
D'accord.
Et voilà, c'est des sushis zombies quoi, qui attaquent les gens. C'est donc les poissons sont vivants, mais en fait non, sont morts. Enfin, c'est génial. Quoi.
D'accord. Voilà. Du coup, je peux la balancer la bande annonce là.
Vas-y, balance la bande annonce. Je rappelle juste que ça sort le 2 mars.
Non, mais t'inquiète, tu pourras reparler du film juste après. Hein.
Mais j'ai fini.
Ah merde.
L'ambiance.
Oui. J'adore cette bande-annonce. Ouais.
Alors, on n'a même pas besoin de comprendre le japonais pour comprendre que c'est déjà complètement n'importe quoi. D'accord. La musique, les bruitages. Fin...
Non, mais la beauté du texte, voilà. Quand même.
Ouais. Donc, ouais, à voir, absolument.
Dead Sushi. J'adore la voix du mec qui essaie de faire de l'anglais comme une vache espagnole.
Bah, le japonais sans image fait toujours complètement ridicule parce que, de toute façon, quand on a. Et que ça veut dire wow. Je t'aime, mon amour, viens avec moi, quelque part, ça a l'air crétin. Mais bon.
Donc voilà, ouais, désolé d'avoir un peu foiré ton petit truc.
C'est pas grave, tu pourras foirer le deuxième aussi.
Ça marche, je veux foirer le mien aussi. du coup, ça reste quand même des films très très particuliers réservés à un public, je vais pas dire de connaisseurs, mais voilà, il faut s'attendre à un grand n'importe quoi. Du début à la fin.
Carrément, oui, c'est n'importe quoi, il faut. Si on n'y connaît rien, il faut avoir bu, si on s'y connaît, il faut avoir bu aussi. Donc. Dans tous les cas.
T'as dit qu'il y avait 5 films, ils durent combien de temps chacun? 1h30 chacun?
Plus ou moins 1h30, ouais. 1h20, 1h30. Fin c'est...
Tu les as tous regardés?
Ah ouais, ouais.
Waouh.
Et c'est
et
pas
j'ai
trop long?
Tout adoré.
Waouh.
Du coup,
oui,
Valentin.
Ils essaient de nous dissiper.
Non,
mais vas-y.
Ben non, pas du tout. Du coup, c'est toi qui continue parce que c'est toi le DVD fil de la bande. Donc, le même jour, par contre, chez Artus, si je ne dis pas de bêtises, sort un vieux film de 1963 qui s'appelle, en français en tout cas, Le Manoir de la Terreur.
Exactement. Ça sort pas le jour même, ça sort le lendemain.
Ah,
ça sort d'accord. le 3.
C'est pas grave. Je me suis un petit peu trompé.
C'est pas grave, hein, c'est plus ou moins la même chose.
Donc c'est un film de Delberto De Martino dont nous allons écouter un. Je suis désolé.
Vas-y. Mets un extrait.
Un extrait parce que j'ai pas trouvé de bande annonce. Je crois pas qu'il y ait de bande annonce. Donc voilà, c'est un extrait en VO. Désolé hein, pour les Français. Mais voilà, je pense que le son parle lui-même.
Et pour les Japonais aussi, désolé.
Et surtout pour les Japonais.
Hein. Emily, listen to me. I'm entering your sleep. You must obey me. Abandon your will, Emily. Your destiny is now in my hands. You will follow me, Emily, to your tomb, to your death, to die.
To die, to die.
Alors, parce que ça dure pendant très longtemps. Faut-il mourir d'amour pour ce film?
Oui et non. Enfin, c'est pas le. C'est donc Artus Film. C'est pour replacer un peu. Hein. Ouais, c'est un éditeur de voilà qui est spécialisé dans le cinéma bis, cinéma de genre européen. Et dans leur grande envie de d'éditer des films complètement oubliés du cinéma d'horreur italien et particulièrement des films d'horreur gothique. Qu'ils ont beaucoup édité depuis leur existence. Ça fait au mois de mars, ça fera 10 ans qu'ils existent.
D'accord.
Et donc voilà, le Manoir de la Terreur, c'est ben, comme les autres qu'ils ont édité, c'est un film un peu oublié, mais voilà qu'on a tort d'oublier parce que c'est ce qui fait aussi la beauté du cinéma, quoi, qu'on oublie un peu des films comme ça. C'est une adaptation d'Edgar Allan Poe de La Chute de la Maison Usher.
D'accord. Ah j'avais.
Et donc bon. C'est pas génialissime, mais c'est très très bien à regarder. C'est pas voilà, c'est pas le meilleur. En tout cas, c'est pas dans les meilleurs films. Y a pas Barbara Steele, y a pas les grandes figures, mais c'est quand même très très bien fait. C'est très bien filmé, les décors sont magnifiques. Enfin, voilà, c'est à voir quoi. Moi, le petit problème que j'ai, juste j'en profite, voilà, deux minutes là-dessus.
Vas-y, profite-en.
C'est le problème que j'ai, mais je l'ai déjà dit à plein de reprises et je le redirai encore. C'est avec les bonus en fait de leurs films.
D'accord. Il y en a pas ?
Si, il y a des bonus. Il y a des photos, il y a des bandes annonces. Enfin. Mais le problème, c'est le gros des bonus en fait. C'est toujours une intervention. Là, c'est Alain Petit qui est un spécialiste du cinéma de genre.
D'accord.
Qui intervient, comme il intervient dans quasiment tous les DVD d'Artus. Et voilà, le problème c'est que c'est très explicatif, quoi. C'est-à-dire c'est très on explique et on reparle de ce qu'on a déjà vu. Donc le conseil c'est si vous voulez regarder le bonus, regardez-le avant le film.
D'accord.
Le problème c'est que si vous le regardez avant le film, ça vous spoil le film. Et si vous le regardez après le film, vous avez l'impression de revoir une deuxième fois le film. Donc bon, mais non, mais sinon voilà, c'est quand même à voir juste. Pour le film, pour découvrir ça, comme pour toutes leurs sorties d'ailleurs, j'aurai certainement l'occasion d'en reparler à d'autres moments dans l'année, mais voilà.
Ça marche, merci beaucoup Valentin. Donc depuis le début de l'émission, on a beaucoup parlé de couilles, de testicules, de testostérone, et là j'aimerais vraiment qu'on parte de l'autre côté, même si ces filles-là en ont aussi un petit peu de la testostérone, c'est la bande de filles de Céline Sciamma, dont Margot va parler. Après le petit extrait assez explicite de la bande-annonce.
Allez, cassez-vous,
faut que tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vic comme victoire.
Donc c'est sur cette magnifique musique de Parawan que je laisse Margot faire sa petite chronique. Vas-y Margot.
Ok, alors donc Bande de filles, c'est un film, le troisième je crois, de Céline Sciamma, qui met en scène Khadija Touré dans le rôle principal. C'est, cher auditeur, le film qui te fera aimer Rihanna à mort.
Je sais pas.
Non,
si,
Il y a Dicisienne qui nous fera aimer Rihanna à mort aussi parce qu'elle meurt au bout de 2 secondes.
Ouais, j'avoue aussi.
Là, vous voulez pas laisser parler.
Il y a trop de testostérone dans cette salle. Vas-y, Margot, imposteur.
Merci, Aurélien. Donc, c'est une plongée haletante et dévastatrice dans le quotidien de Mariem, adolescente noire qui vit dans une banlieue parisienne défavorisée. avec sa famille. On avait eu la chance de le voir en avant-première au Palace, je crois, ou au Caméo, je ne sais plus. Mais grâce
au Caméo,
grâce à The Blogger Cinema Club.
Excellent. Et donc, d'ailleurs, nous avons. Enfin, tu as, je pense, il me semble que c'est toi qui as participé à l'interview de la réalisatrice, Céline Sciamma, qui était venue présenter son film.
Absolument, on a eu la chance d'avoir un entretien avec la réalisatrice qui était vraiment très, très intéressant. Et donc, Bande de filles, c'est l'itinéraire d'un groupe de filles qui cherchent à s'émanciper de la domination masculine dans la cité. C'est un film sans adulte, c'est une histoire de métamorphose, c'est un clip, c'est extrêmement fun. Un film d'architecture, un film de corps, un film de questions de genre, de sociologie. C'est assez perturbant parce que ça te laisse une impression à la fois d'extrême richesse, à la fois dans les thèmes abordés, à la fois dans la richesse des cadres, dans le côté extrêmement étudié. Et en même temps, c'est aussi percutant qu'une jolie claque dans ta gueule. Voilà, c'est vraiment puissant. Et je sur-recommande ce film, comme je sur-recommande aussi Naissance des pieuvres et Tomboy, qui sont les deux films précédents de Céline Sciamma. Il y a un côté qui est l'adolescence incarnée, puisque c'est à la fois la grâce et à la fois la tragédie, à la fois l'échec et la victoire en même temps. Enfin, c'est extrêmement riche et très très beau. Vraiment. Voilà.
Parfait. Je ne saurais pas grand chose à rajouter, ni à part le fait que je viens justement de récupérer Naissance de pieuvre à la médiathèque de Metz. Donc,
Ah bah regarde, il est très joli aussi, même si moins abouti pour moi que Bande de filles, mais très très joli quand même.
D'accord. Valentin, je vais prendre le micro, t'as peut-être un...
Non, j'allais juste vous dire de ne pas oublier de rappeler la date de sortie.
Ah oui.
La date de sortie, c'est le 4 mars.
Le 9.
Ouais. Donc ça sort... qu'on a des gens qui sont un peu plus carrés. Hein.
Ça sort en DVD, hein, parce qu'il est sorti au cinéma il y a un petit moment. Donc le 4 mars chez Pyramide. Et je vous conseille, désolé, ça fait deux fois que j'en parle, mais surtout d'écouter la bande originale de Parawan, qui est un mec, un producteur absolument génial. Et donc voilà.
Oui.
La BO se trouve en vinyle à la face cachée, hein, je me permets.
Oh, le placement produit. Non, mais la BO en vrai est très très belle et c'est un genre de boucle en fait qui s'enrichit à chaque un peu. Palier que passe le personnage principal, c'est très très beau et très intéressant, même à écouter en soi. Je trouve que ça se savoure sans image aussi, c'est très très, très 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 chouette.
Et c'est assez culotté de la part de la réalisatrice d'avoir fait appel à lui pour faire la bande originale, parce que Parawan est surtout connu pour avoir produit le groupe de rap TTC, qui est juste un groupe de rap. J'irai pas jusqu'à dire misogyne, mais qui a beaucoup axé, qui a beaucoup axé ses textes, sur la domination masculine. Ils se sont d'ailleurs fait bâcher sur ça par Yale. Et donc voilà. Donc je trouvais ça assez culotté de sa part d'avoir fait appel à lui, mais donc voilà. En tout cas, je sais pas, vous les Super 5 là, vous avez l'occasion de le voir ou pas?
Non, mais on a vu la réalisatrice là.
C'est Céline Sciamma.
C'est Céline Sciamma. Ouais, on l'a vu.
On l'a vu de loin, mais on l'a vu.
On a échangé avec elle à l'époque. Non, on a parlé.
Ah oui, non, c'est vrai, c'est qu'on a parlé même avec elle.
J'ai parlé un peu.
Elle est vachement chouette. Elle est accessible.
Elle était venue à l'école en fait. Elle était venue au Beaux-Arts de Metz.
Elle est venue au Beaux-Arts. D'accord.
Au Beaux-Arts, présenter la naissance des pieuvres. C'est vrai qu'elle est super. Elle était super chouette, super abordable, super sympa. Elle m'a un peu draguée, je crois.
Ah, c'est ça.
Ça m'étonnerait, elle est lesbienne.
Ouais, il me semble aussi.
Oui, c'est d'ailleurs une question qu'on lui a posée. Et j'ai trouvé ça un peu nul. Parce que c'était comme si ça aidait à mieux lire le film.
Ah ouais, c'est clair. Ouais.
C'était un peu indélicat comme ça. Mais elle m'a quand même draguée.
Ok, Jean.
Je ne sais pas quelle conclusion tu dois en tirer.
Donc voilà, au risque de se répéter, je vous rappelle qu'on a donc réalisé l'interview de Céline Sciamma, que je vous recommande d'aller voir, parce qu'effectivement, c'est une des rares réalisatrices, je trouve, à vraiment parler de son film avec une intelligence assez rare, en fait.
La vidéo sur
thebloggercinemaclub.com, sur la chaîne YouTube aussi de l'association.
Et dans le lit de Jean Chauvelot également.
Pas cette semaine.
On est en semaine PR, c'est vrai. Donc,
à la vache.
Manque de... Non, je sais pas comment enchaîner sur ça. Clairement, on va revenir à de la vraie testostérone.
Sans transition.
Je suis désolé, Margot, il n'y a absolument aucun enchaînement. Donc, nous allons parler de Keanu Reeves, qui incarne John Wick. Apparemment, si on en croit la bande-annonce, j'ai pas vu le film... Un mec qui a une sacrée paire de couilles aussi, même s'il a l'air un petit peu...
Il est producteur ?
Je sais pas. En tout cas,
Non, c'est Eva Longoria qui a produit ce film. Étonnant.
Eva Longoria avec des couilles.
Ah bah. Donc voilà. Donc je vous laisse voir à peu près le genre de film avec un extrait de la bande-annonce.
Où t'as eu cette caisse ? Qu'est-ce que ça peut foutre ?
C'est pas ce que t'as fait le problème, fiston.
sais à qui tu l'as fait. Ce minable. Ce minable. Et John Wick.
Ouais gros. Ha. Alors Valentin.
Ha. Check it out. Ha.
J'ai enlevé la partie dans la bande-annonce pour des raisons de temps où il disait qu'en fait on lui avait apparemment tué son chien et je crois
alors,
que c'est ce qui est déclenché.
En fait j'aurais bien aimé que tu passes pas cet extrait et que je fasse la bande-annonce parce que le film se résume à ils ont tué son chien et volé sa caisse. Maintenant John Wick va prendre sa revanche. Parce que l'histoire c'est ça et c'est assez génial en fait. T'es plongé dans le film et en fait le mec c'est une histoire de vengeance parce que tu vois il y a des mecs comme Charles Bronson qui se vengent parce qu'on a violé sa femme et sa fille devant ses yeux.
Ou Jack Burton parce qu'on lui a volé son camion.
Voilà, non mais par exemple, ouais mais c'est un peu comme sa femme Jack Burton son camion, tu vois, c'est une histoire d'amour.
Il dort dedans.
Là c'est le mec, on lui a tué son chien qui en plus est petit et moche et on a volé sa caisse.
Non mais son chien il sort avec sa femme aussi.
Non, sa femme, c'est pas pareil. Sa femme, elle meurt au début.
C'est sa femme qui veut faire le chien à la base.
Lui offre le chien, d'accord.
Mais
bon, en soi, enfin voilà quoi. Le mec va affronter une bande de mafieux. Je sais même plus ce qu'ils sont, russes, je crois. Alors non, mais le film, c'est Keanu Reeves. Il est génial. Non, c'est quand même à voir parce que c'est un film d'action qui est très très bien mené. Il y a aucun temps mort. Ça dure 1h35, un truc comme ça. Il y a aucun temps mort et alors je me suis amusé à compter le nombre de morts qu'il y a dans le film, c'est assez amusant. Il y a 84 morts.
Ah oui,
c'est
vraiment chier, quoi.
Non, mais
le film en fait.
En fait, non mais il y a 84 morts.
84 morts.
Et sur les 84 morts, il y a je crois 5 ou 6 personnes qui sont tuées par les méchants. Et tous les autres, c'est Keanu Reeves.
Il y a combien de
blessés? Le mec, il est là, il débarque et puis bam 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 headshot tout le monde quoi. Enfin, ah non, il y en a pas un seul qui meurt pas avec une balle dans la tête. C'est incroyable quoi.
Et tiens, prends des cacahuètes.
Et donc voilà, il y a énormément de scènes d'action, mais elles sont très très bien filmées. Dans ça, il faut quand même le dire, elles sont très très bien filmées. Elles sont super bien rythmées par le montage et la musique. La musique, elle est excellente. On va en écouter un extrait tout à l'heure. Et non, mais voilà. Bon après, voilà, l'histoire est un peu vue et revue mille fois, mais juste parce que c'est Keanu Reeves, parce qu'on le voit pas assez, parce qu'il est beau, parce qu'il est incroyable, parce qu'il est génial. Il faut le voir. Ça sort le 4 mars chez Metropolitan.
Chez Metropolitan. Jean, tu as un truc à rajouter? Les chiens?
Ah oui, non, oui.
Non, pas forcément.
C'est un film que t'as descendu il n'y a pas si longtemps.
Qui?
Toi?
Moi, non.
Ouais, si, je crois.
Où ça?
Celui-là?
Bah ouais, le problème, c'est que c'est pareil, c'est encore du spoil.
Il faut en avoir voir ce qu'il fait en fait.
Oui, le film australien, j'osais pas en parler, je suis désolé, on va pas dire le titre pour pas spoiler parce que tout le film tient là-dessus.
Moi, tu l'as dégommé, moi, je l'ai adoré, il faudra qu'on en parle après.
D'accord.
On peut pas dire le titre. On peut pas dire le titre
du désert.
Mais non, parce que tout le film tient là-dessus. Oui, je suis désolé, mais
on parlera ça plus tard.
Prends tes gants, Jean. Prends tes gants.
Parlez-en maintenant, ça a l'air cool.
Non, on va pas spoiler parce qu'on en a.
C'est un film qui porte le nom d'une marque de voiture.
Oh putain, mais c'était super naze.
C'était le mec de Twilight, je crois, non?
Non, pas du tout. Ah si. Bah si, il a raison. Bah si, Twilight.
C'est avec Robert Pattinson.
Je n'ai pas vu
Twilight. Exact.
Non, on n'a pas le droit de dire deux marques. Donc The Rover, il faut placer deux autres marques au minimum.
Putain, mais tu dis que j'ai écrit
Mercedes-Benz.
Mais oui, c'est génial.
Oui, je dis ce que t'as écrit.
Mais uniquement parce que c'est toi.
On a un podcast, on n'a pas le CSA.
D'accord.
Par contre, je sais pas ça que je voulais dire. C'était par rapport à ce que tu disais, John Wick. Je l'ai pas vu et j'ai vu un film avec Tom Cruise qui m'a l'air un peu pareil.
Jack Reacher.
Est-ce que c'est comparable?
Ah non, c'est comparable, oui et non, parce que c'est comparable, c'est un mec tout seul qui va buter plein de méchants.
Je me suis pas fait chier en soi devant
Jack Reacher, je trouvais ça génial, je trouvais ça excellent.
Non, mais Jack Reacher, c'est excellent.
Oui, c'est excellent. Mais c'est moins drôle, tu vois, il y a moins de punchline où le mec arrive et puis dit des trucs, c'est drôle, mais c'est quand même badass, mais c'est quand même drôle. Non, là, c'est vraiment très sérieux en fait.
John Wick, il y a pas.
John Wick, c'est plus, ouais, c'est beaucoup plus sérieux.
Ça reste un mec avec un flingue et qui s'écoule dans une brouette.
Mais ça reste quand même très badass. Ouais, ouais.
Mais Keanu Reeves, pourtant.
Keanu Reeves, il rigole pas.
Habillé
en costard pendant tout le film, il est là avec son flingue, ça y est quoi. Le mec, il passe en fait toutes les premières 20 minutes du film en t-shirt chez lui, un peu en mode lock quoi. À partir du moment où on a tué son chien, il enfile son costard, il est là avec son flingue et allez, c'est parti, on va tuer ces Russes quoi.
C'est génial. Le cinéma, c'est génial.
En parlant de cinéma, merci Jean pour l'enchaînement. On va arrêter avec les DVD, on va continuer avec la scène de cinéma, la semaine de cinéma des sorties du 4 mars. Margot, C'est toi qui as l'honneur d'introduire cette séquence avec un petit extrait de la bande-annonce du film Chappie de Neil Blomkamp.
Mon robot est contrôlé par la pensée d'un être humain.
On veut pas de ce truc. C'est cher, c'est gros et c'est moche.
Les Scouts sont un énorme succès. Laissez tomber vos petits projets personnels.
Ça y est, j'ai réussi. C'est une nouvelle forme de vie, une nouvelle étape dans l'évolution. Tu es Chappie.
Chappie.
C'est comme un enfant, il doit apprendre.
Alors, wow. Margot, ouais, désolé, c'est un peu
ouais,
abrupt.
Ouais, non, mais il n'y a pas de souci.
Alors, chapeau pour Chappie ou pas ?
Non, non, alors justement, j'allais commencer ma chronique en disant que toute blague sur Chappie Chapeau était rigoureusement interdite.
Ah,
ici.
Bah d'accord, bah du coup, je me loupe au flagel.
Merci, Étienne. Donc, Chappie de Neil Blomkamp.
Neil Blomkamp, oui. Bon.
Voilà. Avec Hugh Jackman et Sigourney Weaver et. Très curieusement, d'ailleurs, les musiciens de Die Antwoord.
Die Antwoord, oui. Ben
ouais, c'est vrai. C'était bizarre parce que c'était agréable comme surprise. En même temps, c'était assez surprenant, quoi. Donc, avec aussi Charlton Copley, qui est un peu, finalement, la muse de Blomkamp, puisqu'il jouait le rôle de Vicus, déjà, dans District 9.
D'accord.
Et qui interprète ici le personnage principal en motion capture, qui est donc Chappie, le robot. Et juste pour résumer un peu le pitch, dans un futur proche, la police est entièrement robotisée. Ce qui fait polémique parce qu'il y a évidemment des débordements, des choses qui se font un peu incontrôlables. Et là, on a, pour résoudre le problème, il y a un peu une opposition entre Hugh Jackman qui décide de créer un robot complètement contrôlé par l'homme, donc complètement contrôlable soi-disant. Hugh Jackman qui est un peu pour le coup le côté testostérone de cette émission, tu vois.
Et qui réintroduit la nuque longue.
Ouais, absolument,
Encore un hommage à Jack Burton.
Exactement.
Merci de soulever le point capillaire de l'émission. Effectivement, la coupe de Hugh Jackman est quand même assez incroyable.
Je suis
Désolé. Désolé,
mais
Margot, vas-y.
Il n'y a aucun souci, on peut commenter les cheveux tant qu'on veut. Donc, il y a une opposition donc, entre Hugh Jackman qui crée un robot entièrement contrôlable par l'homme et Dave Patel, l'acteur.
De Slumdog Millionaire, c'est ça ?
Ouais, de Slumdog Millionaire et de Skins.
Et de Skins, la série Skins, ouais, génial.
D'origine indienne, qui lui. Pour créer un robot en fait doté de sentiments et d'un libre arbitre qui sera le personnage principal du film. En tout cas, c'est ce que les teasers vendent. Et ce qui est assez étonnant, c'est que y a un peu deux types de teasers. Il y a les teasers qui vendent Chappie comme un film vraiment à base d'explosions, à base de shaky cam, un peu comme dans District 9,
ouais,
de choses qu'apprécient les réalisateurs. Et il y a d'autres teasers qui vendent le film comme quelque chose d'un peu plus familial, basé sur un enfant qui se lance dans la vie et qui va découvrir qui il est, et qui sont vraiment à la limite du parodique et qui prêtent à rire. Et c'est personnellement, moi, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avoue que j'ai hâte parce que c'est un cinéaste qui aime être un peu dans l'ambiguïté des registres. On sait jamais exactement où il se situe entre la parodie, entre la pastiche. Déjà dans District 9, moi, ça m'avait fait cet effet-là. Il est dans des contours pas tout à fait nets et c'est assez intéressant. Et puis, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, en fait, de voir ce film, puisque aujourd'hui, jour de l'enregistrement de l'émission, en tout cas, il a été officialisé que ce cher Neil allait réaliser le prochain opus de Alien. Et voilà, du coup, ça ne vous laisse pas le choix, en fait.
En espérant qu'il soit acheté une Steadicam d'ici là.
Ou je sais pas trop.
Alors.
Non, mais arrête-moi.
Un prochain Alien ou un Prometheus 2 ?
Alien 5, oui.
Non, Alien.
Alien 5.
Ouais, mais alors apparemment, il y aurait des rumeurs, en tout cas, qui voudraient qu'il reprendrait le film, qui reprendrait la saga Alien, en tout cas, juste après le 2. Qui ferait comme si le 3, le 4 n'avait jamais existé.
Genre, c'est un espèce de pseudo-reboot ou c'est un autre endroit avec d'autres personnages ?
C'est un pseudo-reboot.
Parce que s'il n'y a pas Sigourney Weaver, c'est pas Alien. Hein.
Ah,
non,
si.
Alors effectivement, en fait, le film a pu officialisation-là a pu se faire parce que Sigourney Weaver joue dans Chappie, a adoré travailler avec Neil Blomkamp et du coup a dit qu'elle accepterait de faire un Alien avec elle.
Je suis extrêmement excité. Voilà. Extrêmement excité.
Bah voilà, c'est ça.
En semaine 3.
En même temps, c'est assez perturbant parce que je me dis que c'est quelqu'un qui va très volontiers se moquer en fait des défauts, parce qu'il y en a, des défauts qu'il y a dans la saga. Et le fait qu'il veuille reprendre après le 2, c'est assez perturbant. Je trouve qu'il y a des questions à se poser.
Ça va être génial.
Moi, ça me fait super peur.
Non,
non moi je pense que ça peut être vraiment cool parce que moi je suis vraiment fan de District 9 et de ce regard extrêmement distancié qu'a ce mec sur le passif de la SF et sur ce qui existe. Je pense que ça peut être vraiment chouette en fait.
Moi c'est pas sur son regard que j'ai peur, c'est sur sa forme. Autant dans District 9 qui était un found footage, ça passait. Sur Elysium, la Jackie Cam était super chiante.
Oui, mais justement, il prouve dans la deuxième partie de District 9 parce qu'il fait un espèce de virage en fait. Et moi, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose de chouette. Et justement, avec Chappie, c'est là qu'on verra comment il peut se positionner aussi autrement que dans du found footage, comme dans Elysium aussi.
Bah, c'est vrai que de toute évidence, c'est un mec qui sait faire des films et qui sait s'amuser avec sa caméra. Moi, ce qui me ferait peur, c'est effectivement qu'il fasse une blague avec Alien. S'il fait ça, moi, je le retrouve, je lui casse la gueule.
Ah, oh, c'est clair.
Mais par contre, je pense que c'est un mec suffisamment intelligent pour se dire, tiens, je vais montrer aux gens que je sais faire des bons films sérieux. Moi, c'est vrai que District 9, j'ai pas vu Elysium, mais moi, ça m'a un peu fait chier, la réa. Moi, je trouve qu'il en fait trop, ce mec. Mais.
Ah ouais?
Ah moi je mais après moi je suis un con hein. Mais, mais Alien on n'a pas le droit de le rater, c'est impossible.
Oui bah pourquoi
il y a certains qui l'ont.
Ah ouais, mais là, on va dire ça Jean-Pierre
Jeunet. Non mais attention, non mais
l'Alien 4 n'est pas un mauvais film.
Non, c'est
un mauvais,
c'est une bonne comédie,
c'est un mauvais Alien, mais c'est pas un mauvais film.
Je trouve qu'Alien 3 est plus raté qu'Alien 4.
Ah non, je peux pas
dire ça. Je suis pas d'accord.
Non.
On fera une spéciale Alien dans 2 semaines parce que là ça prête 3 débats là.
Alien 4, ce qui est bien, c'est que tu peux le montrer à ton enfant.
Ah oui, mais je suis d'accord avec toi.
Non mais
aussi il a quel âge aussi, quel âge aussi.
Non. Moi petit, c'était mon préféré. Je veux dire,
petit.
Mais moi, je suis pas
quel âge, 97.
Moi, sorti. Non, mais il est sorti, j'avais.
97, 98, je crois.
Bah, ouais, j'avais 98. J'avais même pas 10 ans quand il est sorti.
Oh mon dieu, quoi.
Bébé. Ah, ouais.
Il est mignon.
Non, j'ai dû voir à 10-12 ans, j'ai trouvé ça génial. J'ai détesté tous les autres. Et puis maintenant, j'ai compris. Mais.
Depuis, t'as grandi.
Tu as mué, c'est bien. Alors, effectivement, on fera une spéciale Alien bientôt. Yes. On va partir
invitez-moi.
Tout à fait ailleurs. Oui, on t'invitera, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci,
donc là, t'es en train de mettre fin au débat.
Ah, t'avais pas fini, pardon.
Bah non, mais nous tous, on n'avait pas fini, je pense. Il fallait qu'on exprime nos...
Non, moi, j'ai resté 1h30 sur Alien.
Bah oui, c'est pour vous tourner, quoi.
Et sur District 9 aussi.
D'ailleurs.
Bien, le débat a pris fin.
On n'a pas fini, mais on n'a rien à dire.
Je suis désolé, je pensais à ce pauvre Étienne là-bas. Mais Margot, tu vas pouvoir continuer parce que les deux prochaines chroniques sont avec toi et surtout avec ton ami de toujours Valentin. On lançant une certaine fraternité ce soir, un amour certain entre vous.
Absolument.
Alors, je pense que vous vous clasherez pas parce que apparemment vous aimez beaucoup Paul Thomas Anderson, dont le prochain film sort le 4 mars et que ça s'appelle Inherent Vice.
Alors si ça te va, je vais faire le lancement. Ah non. Il y avait une bande annonce là.
Oui, il y avait une bande annonce.
Ah pardon.
Comme à chaque fois.
Allons-y. Ouais.
Allons-y.
This is Doc Sportello. He's a private investigator. Whoa!
Are you all right?
Am I?
Are you?
And like a peculiar planet in today's horoscope, in through the door walks Doc's ex-old lady Shasta and those five little words.
I need your help, Doc.
Yeah, be funky, Margot. Vas-y, à toi.
Alors, ok, je vais commencer en vous donnant, à vous, chers auditeurs, trois bonnes raisons d'aller voir Inherent Vice. La première bonne raison, c'est que c'est un film de Paul Thomas Anderson. La deuxième bonne raison, c'est que c'est un film avec Joaquin Phoenix. Et la troisième bonne raison, c'est que c'est un film de Paul Thomas Anderson. J'espère que ça vous a convaincu.
Pas vraiment.
Non, En vrai, si l'on s'en tient juste au teaser et en admettant que vous ne savez rien de Paul Thomas Anderson, ça a juste l'air improbable, jouissif et drôle, avec un casting haut en couleur, par exemple Josh Brolin, Owen Wilson, Benicio Del Toro, pour ne citer que, et une photographie complètement psychédélique au service d'une histoire qui a l'air juste improbable. Ça m'aidera peut-être à me remettre à la fois de The Master, qui a été quand même assez difficile à digérer, et de la mort de Philip Seymour Hoffman. Maintenant, comme je suis vraiment extrêmement émue, je vais laisser la parole à Valentin, mon collègue.
Moi, je vais commencer avec une quatrième bonne raison de voir le film, c'est que c'est un film de Paul Thomas Anderson.
Merci.
Non, mais je peux même pas être objectif quand je parle de lui. Il est jeune, il est génial, il est beau, il est tout en fait, il est excellent.
Tu parles de Jean là, c'est ça? Non, pardon.
Oui, si Jean, je parlais de toi en fait, mais c'est toi qui as fait Inherent Vice.
Non, je l'ai confié à Paul.
On m'a donné de mauvaises informations.
Non, mais voilà. Alors, Inherent Vice, c'est basé sur un roman de Thomas Pynchon, qui est un auteur un peu mystérieux, un auteur américain qui écrit depuis presque 50 ans, qui est très très mystérieux, et le roman est... Et en tout cas assez connu pour être inadaptable, quoi. C'est une histoire qui part vraiment dans tous les sens et qui, je pense, a été écrit sous substance pas très légale. Mais voilà, en gros, l'histoire, parce que Margot a donné des bonnes raisons, mais a pas donné une des autres bonnes raisons, qui est l'histoire du film, qui est donc l'histoire de Doc Sportello, qui est un détective privé incarné par Joaquin Phoenix et qui est engagé par un riche milliardaire pour retrouver sa femme qui a disparu. Voilà, donc le casting fait rêver, comme Margot le disait tout à l'heure, hein, Joaquin Phoenix, Owen Wilson, Josh Brolin, Eric Roberts. Eric Roberts, ça fait rêver que moi, j'ai l'impression, mais ça fait rêver quand même. Et il faut le dire, parce que je pense que on va réentendre parler de cette actrice, c'est Catherine Waterston, qui, je pense, en tout cas, est déjà en tout cas annoncée comme l'une des révélations de cette année.
C'est les fesses qu'on voit sur l'affiche.
Qui, oui.
Chouette.
En tout cas, voilà.
On en a parlé il n'y a pas longtemps, non? C'est qui?
Je sais pas.
D'accord.
Non, on en avait parlé?
Non, justement.
Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est une jeune actrice qui a, je pense, un bel avenir devant elle. Pas parce qu'elle a juste de belles fesses, mais parce qu'elle joue dans ce film, et je pense que...
Si elle tourne avec Besson, elle aura le droit à un super plan fesses, je pense que...
Alors, si elle tourne avec Besson, je retire ce que je viens de dire, c'est pas du tout une révélation, elle est très mauvaise. Voilà, non, mais oui, c'est absolument à voir, ça se passe dans les années 70, et moi j'ai une passion amoureuse de folie pour Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, entre tous ces autres films, mais surtout celui-là, et c'est vrai qu'on pense énormément à ça, hein, dans la construction de l'univers des 70s.
D'accord. Moi, en voyant la bande-annonce, ça m'a forcément fait penser à Las Vegas Parano, le côté un peu journaliste,
oui,
comme
oui,
ça, Gonzo,
oui,
des
vrai.
Années 70.
Ouais, ça aussi, ouais.
Je sais pas trop si ça va se rapprocher de ça, mais en tout cas, clairement, voilà, c'est un des gros films à venir.
C'est un des gros films de l'année. Oui, moi, j'ai lu le bouquin. Et comme je disais, c'est inadaptable parce que vraiment, ça part dans tous les sens, quoi.
Comme Las Vegas Parano.
Ouais.
Les Super 5, vous avez l'air un peu circonspect. Vous connaissez un peu le film, la cinématographie de Paul Thomas Anderson ou pas?
Je trouve que c'est nul. Il a fait que des mauvais films. Je comprends pas comment vous puissiez.
Donc non, maintenant je suis sûr que c'est pas Jean Chauvelot qui a fait Inherent Vice. J'en suis sûr.
Et donc c'est un fan d'Alexandre Aja qui dit ça.
Non, c'était évidemment une grosse blague. J'attends ce film.
On attend ce film.
On l'attend. Beaucoup, beaucoup d'excitation. Il n'y a pas un seul film de Paul Thomas Anderson. J'ai même aimé Punch Drunk Love, pour vous dire. Ouais.
Moi, c'est le film qui m'a fait aimer Adam Sandler. Mais que ce film.
Tout à fait, ouais. Qui m'a fait pardonner Adam Sandler.
Oui, voilà, ouais. C'est ça.
Ouais. Oh, on est dur, là.
Ouais, rien que pour vos cheveux, c'est fun.
Oui, oui, oui.
Oui. Ouais, moi, je reviendrai pas à la prochaine émission, hein, si Thomas est autour de la table.
Non, mais effectivement, on est à fond. Enfin, moi, j'ai quand même peur d'un truc.
Vas-y,
est-ce que vous avez vu American Hustle?
Non.
Oui, absolument.
Qui était par contre une très grosse déception pour moi. J'attendais énormément. C'est un film très bien fait, le casting est super super alléchant.
Ouais, mais il y a Bradley Cooper poilu quand même.
C'est que des.
Mais dans Les Gardiens de la Galaxie, il y a Bradley Cooper poilu aussi.
Ah oui,
c'était
beaucoup
mieux.
Plus poilu.
J'ai peur que ce soit un film un peu plein de blibli qui font rêver comme American Hustle. Mais sauf qu'effectivement, c'est Paul Thomas Anderson et il ne. Je pense pas qu'il puisse faire un mauvais film, c'est impossible. Joaquin Phoenix en plus, il va être grandiose. Rien que la bande annonce, elle m'a fait souiller.
J'arrive pas à imaginer qu'il puisse se planter, ce gars-là.
Non, c'est clair.
Il va dans peu de films et quand il y va, c'est toujours génial.
Ça fait partie de ces mecs. Le seul reproche qu'on leur fait parfois quand on est vraiment casse-pied, c'est c'est un peu surréalisé, quoi, ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire?
C'est tellement parfait.
Quoi.
C'est un peu un mec qui se regarde faire de l'art.
Ouais,
mais ça passe. Quand c'est lui, ça passe.
Bah, nous aussi, on veut le regarder faire de l'art, en fait.
C'est ça.
Alors, il va falloir enchaîner. On va rester dans l'univers de l'adaptation d'auteur avec un film qui parle apparemment, en tout cas, si j'ai bien saisi, d'Amélie Nothomb, pardon. Enfin, en tout cas, qui a l'air inspiré de la vie natée d'Amélie Nothomb. Enfin, Margot, tu vas nous en parler. Donc, ça s'appelle Tokyo Fiancé. Désolé, je te coupe encore une fois. Vas-y, Etienne.
J'avais 20 ans. Je voulais être japonaise. C'était le but de ma vie.
Konnichiwa, konnichiwa.
Je voulais aussi devenir écrivaine. Mais c'est une autre histoire. Un jour, j'ai pu prendre un aller simple pour Tokyo. Pour y devenir enfin ce que j'étais malgré les apparences.
Mushi mushi.
Une vraie japonaise.
Yes, I am the French teacher. Yes,
œuf.
Mushi Mushi, Margot, alors tu as l'air... je sais pas, vas-y, dis-moi. Je...
Écoute, ça va pas être facile d'enchaîner entre Paul Thomas Anderson et ça. Enfin, ça. Écoute, c'est une adaptation belge d'un roman d'une auteure belge qui s'appelle Amélie Nothomb.
D'accord, je connais pas.
Ça m'a tout l'air d'être une adaptation inintéressante du roman le plus inintéressant d'Amélie Nothomb. Comme dès qu'on entend Amélie Nothomb, il est évidemment question soit d'un personnage obèse et pervers, soit d'un personnage qui rêve tellement d'être japonaise. Et en l'occurrence, ça va être plutôt la deuxième proposition, c'est Sylvie Testud qui campe un personnage qui rêve d'être japonaise.
Pour changer un peu.
D'être japonaise, et voilà, c'est l'histoire d'Amélie, une Belge, qui débarque à Tokyo et commence par y donner des cours particuliers de français. Elle y rencontre Rinri, qui devient son élève et rapidement également son amant. Si l'on en croit les bandes annonces en tout cas et le roman que j'ai eu la malencontreuse idée de lire, ça a l'air mièvre et chiant. Voilà. Juste pour l'anecdote, l'acteur japonais qui s'appelle Taishi Inoue, je crois, ne parlait pas un mot de français et a appris son texte par cœur, sans savoir de quoi il s'agissait du tout, ce qui laisse augurer de bonnes choses vis-à-vis du jeu d'acteur.
Comme dans Wasabi.
Bah, comme dans Wasabi, mais également comme dans Hiroshima, Wasabi. Mon amour. Et
comme Mike Brandt aussi.
T'as vu la culture?
On espère que, comme dans le cas de Eiji Okada, qui avait joué dans Hiroshima, mon amour, on espère pour lui, en tout cas, qu'il immortalisera définitivement une prononciation comme « Tu n'as rien vu à Hiroshima ».
Bah là, en l'occurrence, c'est plutôt « Tu n'as rien lu à Hiroshima ».
Bah écoute, là, en l'occurrence, ce sera plutôt « Tu n'as rien vu au cinéma ». Parce que, enfin, franchement, je suis désolée, mais ça a l'air vraiment, vraiment nul et inintéressant. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Voilà. Je pense qu'Amélie Nothomb fait partie des auteurs inadaptables et pourtant c'est pas comme si c'était inintéressant ce qu'elle faisait. Voilà.
Très bien, merci Margot. Je me permets d'enchaîner avec une petite interlude musicale avec un groupe qui a un nom un peu japonisant, Kaleida, c'est ça ?
Kaleida.
C'est Valentin qui a choisi ça parce que ça fait partie de la bande originale
de John Wick.
D'ailleurs,
si vous regardez le film, c'est une des meilleures scènes d'action du film. C'est peut-être la meilleure scène d'action du film.
D'accord.
Il se passe dans une boîte de nuit, évidemment, comme d'habitude. Il désingue des gars.
Combien ?
C'est pas au Guess, non. C'est une boîte qui a l'air un peu plus prestigieuse, mais voilà, la musique est excellente, quoi.
C'est prestigieux.
Le morceau s'appelle le Guess.
Quoi ?
Rien n'est plus prestigieux que le Guess.
Et si, il y a le Black Pearl, là, j'ai
ramené. Le nombre de placements produits par émission, c'est assez impressionnant.
Mais on va finir par leur demander
de
nous
financer un peu l'émission, là.
Ok,
c'est le cas. Hein.
Voilà, le morceau s'appelle Think.
Exactement, donc c'est parti.
Go ahead, take
C'est beau. Merci Valentin pour cette découverte.
De rien.
Comme je te disais, moi, ça me faisait vraiment penser à Austra et donc du coup, je suis assez fan du côté clavier, chant. Donc rien du tout à voir. On va partir pour la quatrième partie de notre émission consacrée aux dernières choses que les gens autour de la table ont vues. Donc ça soit au cinéma, pas forcément, à la télé, en VOD, ou même en téléchargement illégal, Sylvain. Parce que c'est toi qui va lancer le truc. J'ai cherché.
Et donc
film.
Il habite à... C'est vrai qu'il n'est pas sorti. Alors,
il n'est pas sorti en VOD, mais c'est pas grave. T'as le droit. C'est
en tout cas, pour Adopi, sachez qu'il est chez Free. Hein.
Non, non, je suis vraiment j'habite à Romba.
Je suis GSFR en plus.
Donc nous allons parler d'un film qui n'a jamais été distribué
c'est ça,
en France.
C'est ça, Orange.
Qui n'a jamais été distribué en DVD apparemment. Je crois qu'il est juste sorti aux États-Unis.
Il est sorti au festival. Il a été présenté au festival de Sundance l'année dernière.
C'est là que tu l'as vu, bien évidemment.
Voilà. Bien sûr. Tu es parti à Sundance.
Pour Blogger Cinéma Club.
Merci. C'est notre chargé des relations publiques, lui qui traverse le monde. Et avant de parler de La Guise, parce que c'est le nom du film, d'une certaine, j'imagine, Lynn Shelton.
C'est ça.
Etienne balance. Alors c'est en VO. Donc voilà.
My dad's running some lame divorcee mixer, so he'll be late. Dad, you're supposed to knock.
Wow, high school students are looking rougher and rougher these days. Who are you?
It's kind of hard to explain.
Hey, did you hear the one about the grown woman who started hanging out with a bunch of pubescent kids?
No, what?
No, I'd never heard of it before either.
I don't know what to do with my future. And I gave myself a week.
Alors Sylvain, je sais que ce film t'a beaucoup marqué, tu t'en as même rasé la barbe.
Et c'est exactement.
Tu as voulu revenir à tes jeunes années, tes années prépubères. Donc vas-y, dis-nous en plus.
Donc globalement, donc le film donc, a été réalisé par Lynn Shelton, qui a également fait le film Ma meilleure amie, sœur, sa sœur et moi. C'est Your Sister's Sister, qui était en compétition à Deauville en 2012.
Où tu étais aussi.
Je sais pas si. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Je t'assure. Je sais pas si tu t'en rappelles. On l'avait vu d'ailleurs. On avait bien aimé le film. Voilà.
Il va être en train de boire des bières. Il s'en rappelait.
Si, mais il a pas le micro. Elle a également réalisé certains épisodes de New Girl.
Ah, ça c'est bien. Je suis très fan de cette série.
Voilà. Elle est en tant qu'actrice aussi
non,
dans.
Non, c'est vrai, non, pour de vrai en plus. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais pour de vrai. En VO seulement.
C'est cool.
On devrait parler de New Girl maintenant.
J'adore Zoé de Chanel, je suis désolé. Hein, mais voilà.
Oui, non, mais je l'adore aussi, mais faudrait qu'elle arrête de jouer. Mais il faudrait juste qu'elle fasse des photos.
Non,
actrice musicalement. Et musicalement.
Pour.
Musicalement, je sais pas, mais elle est trop belle.
Pour parodier Margot, je suis tellement pas d'accord, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Vas-y, Sylvain, désolé, bon, je suis désolé, c'est le baptême du feu.
Le pitch, non, mais le pitch globalement de ce film, donc l'héroïne Megan, qui fait par Keira Knightley.
C'est ça, Keira Knightley.
Voilà, c'est une actrice vraiment, j'ai du mal avec elle, mais bon, apparemment, Valentin la surkiffe.
Moi, je l'aime d'amour, elle est géniale, elle est excellente. Voilà.
Et Valentin et moi, on est. Et
juste un truc, Nathalie Portman.
Non, mais je trouve quand elle sourit, il y a marqué débile sur son front. Enfin,
non, ouais. Elle a un tout petit peu prognate, juste ce qu'il faut pour que ce soit un peu excitant.
Bon, bah, chacun son excitation. Vrai, hein,
mais... Moi, le seul truc que je lui reproche, c'est d'avoir joué dans.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est d'avoir joué dans Domino.
Qu'elle a l'air bête, mec.
T'as vu ça, Domino?
Il est génial, Domino. Oh, elle est excellente dedans.
Elle a l'air bête, mais elle
est excellente. Si elle sourit pas, oui. Mais
concentrez-vous, Sylvain.
Globalement, donc, dans ce film, donc, Megan est une enfant adulte de 30 ans.
C'est ça.
Hein, qui ne travaille pas, n'avance pas dans sa vie. Et qui est avec un copain depuis 10 ans.
Bah, comme toi, en fait, mais du coup.
Alors là, je t'ai quoi?
Ah, c'est ton baptême.
Non, mais là, c'est
ton baptême.
C'est vrai qu'un peu quand tu
vois un peu comme toi ouais.
Ouais non parce que bon lors d'une soirée bref, son ami finalement la demande en mariage et elle s'enfuit. C'est vrai que c'est presque non.
C'est pour ça que
globalement elle s'enfuit
dans le film.
Non mais elle s'enfuit d'accord. Arrête de me dissiper c'était.
Pardon.
Elle s'enfuit et donc elle va squatter la soirée avec une bande d'ados et donc du coup de là va se créer une amitié avec Annika qui est jouée par Chloé Moretz.
Chloé Grace Moretz ouais.
Yes.
Ouais, c'est pas forcément.
Si, la petite, la petite qui a grandi de Kick-Ass.
Dans ce film, elle est vraiment très très bien. Sérieusement, ça n'a rien à voir avec ce film qu'elle faisait. Vraiment, là, c'est
elle est toujours très bien.
Bah oui.
Non, mais Kick-Ass, c'est pas.
Ah si.
Bon. Si, il y a Nicolas Cage avec ses grosses couilles.
Oui, il y a Nicolas Cage.
Putain, les mecs, sérieux.
Bref, vas-y.
Bon, globalement, voilà. Donc, afin d'éviter son mec, elle se barre une semaine chez Annika. Comme quoi. C'est bizarre. Donc, et de là, elle rencontre son père, qui est joué par Sam Rockwell. Excellent acteur d'ailleurs.
Ouais, je t'en rejoins là-dessus.
Il n'y a pas de doute.
Ouais. Moi merci. Aussi, je rejoins. J'adore.
Bien. C'est celui dont je me rappelle jamais du nom. Je sais mais pas oui. Pourquoi, mais j'adore ce mec. Quoi. Ça fait 15 ans.
Il m'a impressionné
cinéma,
mais... dans Moon.
Oui.
Ah ouais,
où il était quasiment tout seul. C'était génial. Enfin bref, vas-y.
Le film du fils de David Bowie, c'est ça
Oui.
Je me trompe pas.
Duncan Jones.
Ouais. Bref.
Pour en revenir au film. Excusez-moi.
Oui, vas-y.
Donc globalement, il y a une excellente entente qui va se créer entre les filles, malgré leur différence d'âge entre 30 et 16 ans, donc au niveau
gros
du film.
Différence d'âge.
Complètement. Tout le long du film, on va voir l'héroïne qui va devenir adulte, c'est un peu cliché, hein, sans mentir. Et elle va se rendre compte des choix qu'elle doit faire, et faire face, et surtout les accepter. Il faut préciser que les films souvent de Lynn Shelton parlent souvent de la vie des tumultes des trentenaires. Voilà, c'est le cas pour celui que j'ai parlé, pour Sister Sister, où là vraiment ça, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Globalement, le film, bon, on passe un bon moment, mais si vous n'avez pas de problème avec l'actrice, ça devrait bien se passer. Quoi ?
L'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment.
L'essentiel, c'est ça.
C'est pas un film de ouf,
mais on passe un moment, alors ça va.
Non, mais sérieusement, voilà, on passe un, c'est un divertissement intéressant. On passe des... Non, mais il y a des moments drôles, c'est sympa. C'est un peu gnagnon à cause de l'actrice, encore une fois, je me répète là-dessus. Voilà. On passe
un moment. Très bien, donc à télécharger sur extremedownload.com.
Et comparé à Dead Sushi, c'est comment ?
Je sais pas, j'ai pas vu Dead Sushi.
Oh, merde.
Il n'y a pas Kieran Astley dans Dead Sushi, c'est
normal. Donc ça devrait peut-être passer.
Alors, on fait un tour de table dans l'ordre des aiguilles d'une montre avec Margot. Donc toi, le dernier film que tu as vu, c'est Her, pas facile à dire, de Spike Jonze. Je te coupe tout de suite. On va passer la bande-annonce. Alors, je n'ai pas pu la mettre en VF, parce que c'était juste impossible. D'ailleurs, c'était une version québécoise. Tellement, voilà, l'intérêt est dans la voix de Scarlett Johansson. Et de
d'ailleurs, Margot
Phoenix
va la faire après la voix.
Exactement. Ah, j'espère.
Non.
Donc, alors, je dis Scarlett Johansson, il a chaud là.
Je tiens à prévenir tout le monde, il faut laisser Margot après se lancer dans sa.
Même les plans fesses de Scarlett Johansson sont pas aussi sexy que sa voix dans Heure.
Oh. Allez, c'est parti pour 30 secondes de bande-annonce et ensuite la chronique de Margot.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything.
I love the way you look at the world.
How long before you're ready to date?
What do you mean?
I saw in your emails that you'd gone through a breakup.
Well, you're kind of nosy.
So what was it like being married?
There's something that feels so good about sharing your life with somebody.
How do you share your life with somebody?
Ok Aurélien, je vais te parler très brièvement, je l'espère, de Her, de Spike Jonze, que j'ai eu la chance de revoir ce week-end dans une splendide édition Blu-ray, ce qui était incontestablement l'un des plus beaux films de 2014. Donc pour rappeler brièvement le pitch à ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est l'histoire d'amour déchirante d'un écrivain et de son OS, donc l'intelligence artificielle qui lui sert de système d'exploitation. Je vais lire mon papier parce que si vous me parlez, j'arriverai pas à aller jusqu'au bout. Heure, en fait, c'est ce genre de film un peu insaisissable et organique dont il est difficile de sortir ensuite. C'est le genre de film qui se rappelle à toi, qui te rappelle des choses, un peu comme un miroir tendu. Chaque dialogue, chaque choix visuel et sonore laisse finalement une empreinte qui te suit vraiment longtemps. C'est assez curieux de se rendre compte, de se dire qu'en mettant en scène une histoire d'amour entre un homme et une créature virtuelle, Spike Jonze a finalement embrassé toute une infinité de nuances des rapports amoureux entre les êtres humains. C'est un non-sens pourtant vrai de dire qu'en deux plans, on peut rendre compte de toute la complexité, de toute l'incommunicabilité entre deux êtres vivants. Heure, c'est beau, c'est extrêmement beau. Et maintenant, je m'adresse à toi personnellement, cher auditeur. Regarde Heure, si tu ne l'as pas vu. Tu y verras un discours sur la technologie et ce qu'elle dit des limites ou de la puissance, ça dépend du point de vue, de la sensibilité humaine par rapport à celle de la machine. Tu y verras un discours sur le cinéma, sur le hors-champ, sur une actrice qui arrive à être charnelle même sans corps. Et tu y verras qu'une scène de sexe des plus époustouflantes de toute l'histoire du cinéma peut être représentée simplement avec un écran noir. Mais tu verras surtout tes propres histoires d'amour comme avec plus de hauteur suspendues à un fil avec un vent frais et déchirant qui te traverse l'estomac. Wow. Voilà.
Waouh.
Tu veux qu'on passe d'Alson ou est-ce qu'on
Ouais, je l'ai dit avec des trémolos dans la voix, c'était un peu pathétique.
Alors,
mais...
moi,
je l'ai un film intense, vas-y, chronique genre. Intense, je pense.
Je ne l'ai pas vu.
Tu ne l'as pas vu.
Je ne l'ai pas vu. Si je le vois et qu'il est pas bien,
Là, tu sais quoi,
c'est il bon. Va te fesser.
Ah bah.
Jean, il sera très bien, je t'assure.
D'accord.
Je me permets juste de rebondir pour les Super 5 qui quand même nous accompagnent depuis le début de l'émission. Spike Jones, il est clairement connu pour avoir commencé comme clipper. Voilà, c'est un des, si ce n'est le meilleur clipper de sa génération, en tout cas la génération récente. Vous avez vous-même réalisé certains clips, dont certains pour Chapelier Fou, Artiste Messin. Voilà, c'est quelque chose dans lequel vous vous y retrouvez. Enfin, dites-moi plus là-dessus, quoi.
Déjà, ce qui est drôle, c'est que la transition est excellente. Et je pensais que t'allais la...
Non, en fait, et je l'ai pas noté, ça.
Je pensais que t'allais la faire en disant, mais d'ailleurs, Super 5, figurez-vous que vous étiez dans le top 10 des clips de la semaine dernière des Inculptibles.
Ah oui, c'est
juste
vrai.
Après le clip de Spike Jones.
Et surtout deux fois.
Bah, en fait, vous voyez, il y a eu un bug dans leur
clip. C'est bien, c'est bien.
Ouais, pour nous, adore.
Il y avait, voilà, y avait 10 clips, dont le nôtre et un de Spike Jones, d'ailleurs.
C'est vrai?
Et Jean, tu te la pètes un peu, là, quand
même. Non, non, parce que...
Attends, il a couché avec Spike Jones, il a le droit. Il a couché avec lui,
en semaine 4, c'est Spike Jones, alors j'ai le droit. Non, non, mais Sandex, un copain qui m'a fait remarquer, je me la suis pas pété, j'ai été un peu troublé, hein. Et, je connais pas du tout le cinéma de Spike Jones, mais pas du tout. Il a fait quoi?
Il a fait dans la peau de John Malkovich.
Dans la peau de John Malkovich.
Et adaptation qui est.
Chacun son tour. Chacun
mais la peau de Malkovich, il est écrit pas, ou réalisé?
Il est réalisé.
Non, il est écrit.
Il
est écrit par, je ne sais plus qui, mais.
Surtout, il a fait Heure et il a fait Max et les Maximons.
Ah, merci,
ouais, enfin, Max et Maximons.
Il a fait
Human. Si, si,
ah, moi j'ai trouvé ça excellent.
Max et les Maximons, c'est un
jeu.
J'ai
vu les yeux. Pour en venir à ta question sur les clips, je pense que c'est plus le.
Les clips, c'est cool.
Les clips, c'est cool.
On aime beaucoup la musique et.
Il faut que la musique soit cool, sinon c'est pas facile. Mais ce qui est bien, c'est que c'est quand on bosse avec, enfin je sais pas, c'est surtout un truc de cadre et y a pas vraiment de, y a pas à écrire de dialogue.
On peut faire un peu tout ce qu'on veut avec les clips et en plus si le public ne comprend pas,
on s'en fout, c'est un clip.
Donc ça c'est génial, voilà.
D'accord. Donc vous avez même pas d'actu, un petit truc à nous balancer. Alors.
Ben, on est.
Vous pouvez raconter n'importe quoi.
Non,
vous faites
vrai.
Le prochain clip de Rihanna.
Et non, non, et bah tiens, justement, c'est un peu off record parce qu'on en a pas vraiment parlé. Enfin, très prochainement, on va réaliser un clip pour Fabergo, qui est un groupe de chansons.
Voilà. Très bien, c'est vrai.
Donc, on va faire ça courant très, très bientôt. Là, on est en train d'écrire le truc.
Quand il fera un peu plus chaud.
Quand il fera plus chaud, parce qu'on se fait engueuler, parce qu'on traîne un peu trop, mais on va le faire et ce sera bien. Mais on a un autre projet qui est assez sexy. Qui est pour plus tard, qui est absolument pas sûr, mais on va peut-être faire un clip pour Mute.
Ah oui.
Et on a été contacté par les mecs de Mute et pour un morceau qui est plutôt cosmique et on est hyper excité par ce projet-là aussi.
C'est une très bonne idée parce que le seul visuel que j'ai de Mute, en fait, c'est un clip dans lequel ils ont réutilisé les images de Blade Runner. Alors je sais pas comment ils sont démerdés au niveau des droits, mais c'est à peu près tout ce qu'on a d'eux.
Ouais.
Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Alors passer derrière Ridley Scott, ça va être dur. Mais
Non, je pense que, enfin, ça peut. Enfin, je sais pas comment ce projet va se faire. Je sais pas s'il va se faire. Je sais qu'on est tous plus ou moins super chaud. On a besoin de pognon parce qu'on a envie de faire un truc vraiment bien. Et disons que là, ça n'enlève rien à la qualité du clip de Fabergo qu'on est en train de préparer, qui va être absolument formidable.
Voilà. Il va falloir enchaîner. On enchaîne avec quelque chose qui a rien à voir, mais tout à l'heure on parlait de l'Australie en off, Jean, avec un film sur lequel on n'était pas tout à fait d'accord. L'Australie post-apocalyptique, qui est exactement le sujet du film dont on va parler Sylvain,
ouais.
Qui s'appelle Young Ones de Jake Paltrow, qui est sorti le 6 août 2014 chez Potemkin et dont Étienne va balancer la bande-annonce originale en version originale. Merci. I never saw this land when it was green. My father did. Ladies and gentlemen, one day the water is going to come back. Well, when it rains, they'll see what we have. When it rains. You don't have what it takes to convince those watermen to irrigate this land. Alors Sylvain, c'est à toi. Donc l'Australie, post-apocalyptique, Mad Max, manque d'essence, manque d'eau dans celui-là.
Oui, donc globalement, il faut le voir, vraiment. Bon, le scénario en lui-même, j'allais dire encore, c'est encore un énième film post-apocalyptique, etc., etc. Bon, rien de transcendant au niveau du scénario. Mais rien que déjà pour l'acteur Michael Shannon, qui a joué dans Take Shelter et puis The Runaway.
L'acteur préféré de Florian, qu'on salue une deuxième fois.
Dans ouais. Bug de Freaking.
Et Jenny, par la même occasion.
Il y a aussi Elle Fanning qui joue dedans et Cody Smith-McPhee,
Voilà. Visuellement, rien que le visuel est vraiment. Enfin, moi, j'ai été bluffé par le visuel. Il y a une petite touche à la Tarantino sur le principe des découpages du film en trois chapitres. Il y a un moment, il y a une petite scène où il y a un fond vraiment tout rouge. Vraiment, on se croirait. Voilà, une petite trame de Tarantino assez rapidos.
Tu l'as regardé avec David, c'est ça?
Exactement, et qui pourrait en parler, là, le micro, je t'accorde de toi, hein, s'ils veulent prendre, mais bon, je
oui, sais. En fait, que... l'esthétique du film était quand même jolie.
Ah, yeah.
Oh, oh, ouais, ça, c'est une yeah. première, là, David.
Allez, on est reparti pour une demi-heure d'émission. Ouais.
Vas-y, David.
On t'écoute, David, vas-y.
Non, je te laisse la parole.
Non, vas-y,
c'est vrai que l'esthétique du film est travaillée, quoi.
Ouais, complètement. Les fondus, les mélanges des plans sont vraiment originaux. Il y a certaines scènes qui sont floutées sur les côtés. Enfin, ça vraiment, il y a une esthétique franchement chouette. Donc, il faut le voir. Après, pour finir globalement, David, il avait un petit business plan qui veut se faire aussi. C'est oui, qu'il a kiffé la boîte aux lettres mobile. Ah, il faut génial. Voir le film. Je sais pas si ceux qui l'ont vu ou pas.
Oui, j'ai vu la bande annonce. Voilà. Apparemment, il y a un accident avec elle, c'est ça
c'est de... Non, c'est pas ça. C'est vraiment un autre truc où la boîte aux lettres mobile. C'est un conseil, c'est un concept. Et David, on va essayer de.
Ok, très bien.
C'est tout. Mais il faut le voir.
Super, bah faites du business.
Si vous voyez des boîtes aux lettres mobiles dans Metz, c'est moi.
C'est nous. C'est moi, c'est nous.
Très bien. Tu as oublié de citer qu'il y avait Nicolas Hoult dans le film. Jeune acteur assez prometteur là, qui vient de la série Skins, dont on parlait tout à l'heure, qui était le héros de la première série.
Qui joue en plus vraiment un rôle de méchant, vraiment. Un vrai enculé, quoi, si je peux m'exprimer comme ça. Non, mais sérieusement, il est vraiment. Il joue vraiment très très bien.
Ah ouais. Il avait un peu disparu des radars après la série, mais là, il revient assez fort au cinéma. Il a joué dans les deux derniers X-Men, où il joue la bête, le mec tout bleu, là, avec ses gros poils. Il a joué dans un film de zombies aussi,
dans Jack et le chasseur de géants aussi.
Malheureusement, dans Jack et le chasseur de géants.
Pourquoi malheureusement?
C'était pas terrible.
Non, mais attends, on va lancer ça.
D'accord, on en parlera la semaine prochaine aussi.
Ouais.
C'est pas grave. Parlons de très bons acteurs, sûrement l'acteur qui a assez cartonné l'année dernière, il s'est quand même trouvé dans la plupart des bons films de l'année dernière, qui est Jake Gyllenhaal, je sais pas comment on dit, avec alors de quoi je me trompe, il reste 15 minutes, d'accord.
Quelle transition.
Étienne a envie de rentrer chez lui. Tu as un chat, Étienne? Tu as de ne... non, je sais pas.
Non, c'est juste pour vous donner le
temps. Pourtant, t'es
non,
bien ici avec les chips, les cacahuètes et la bière, non?
Je là pas. Maintenant, est-ce que tu as un chat?
Oui.
Il a un chat, Étienne a un chat.
Bravo.
Donc le film dont nous allons vous parler, c'est intitulé Night Call, mais alors qui s'appelle Nightcrawler. Évidemment, on aura vu là tous les producteurs qui ont voulu rebondir sur le succès de Drive, etc. Bon bref, je vous laisse avec la bande annonce du film.
Hey vous, reculez.
Ça va, je recule.
Ça va passer à la télé?
Au journal du matin, s'il y a des morts, ça vaut de l'or.
Je me lance dans le reportage télé. Je filme des sujets à chaud. Ce matin, tu as dû voir celui sur une agression qui a fini en tragédie.
Ah non, je l'ai pas vu, j'ai pas la télé.
Tu as un téléphone?
Ouais.
Et il a le GPS?
Ouais.
Félicitations, je t'engage.
Oh, génial! Prends la prochaine à droite.
Tu vas trop vite!
On est arrivé avant les flics.
Je ne te demanderai jamais de faire quoi que ce soit que je ne ferai pas moi-même.
Alors, vas-y Thomas, on est au milieu de la nuit, tu peux y aller.
Donc, on va parler de Night Call, donc de Dan Gilroy. C'est dur à dire. C'est son premier film, mais il est plutôt connu pour être scénariste de tout un tas de daubas. Mais je tenais quand même à en citer une, même si je dois aller vite, c'est Free Jack avec Mick Jagger.
Oh putain.
Parce que. Ah, un film de SF complètement.
Ah oui, Free Jack.
Ouais.
Mais il est vieux alors.
Bah ouais.
Le film.
Ouais.
Ah d'accord. Et enfin, c'est son premier film.
Bah en tout cas, il était scénariste. C'est vraiment sa première réalisation, ça, Nightcall.
Putain, je regardais ça en VHS.
Et donc, c'est.
Il a écrit les Jason Bourne, je crois.
Juste l'héritage, il me semble. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Après, comme dit, je
t'en prie. Vas-y, il reste 12 minutes.
C'est avec Jack Gyllenhaal, qui est absolument excellent. Et je tenais aussi quand même à citer René Russo, qui est la nénette de L'Arme Fatale. Et pour le coup, on l'a revu dans Thor avec un rôle un peu merdique, mais bon, voilà. C'est L'Arme Fatale et c'est cool. Faut en parler.
Et qu'on voit plus assez depuis.
On est bien d'accord. Et elle est sexy, hein.
Elle est même bien, elle est sexy.
Ouais, on est d'accord. Bref.
Elle est mille filles.
Donc ça raconte l'histoire d'un escroc finalement qui se reconvertit par opportunisme à la réalisation de vidéos un peu choc pour la télé locale de LA. Donc en fait.
Comme Jean, en fait.
C'est ça. Le but, c'est d'être sur les fréquences d'écoute de la police et d'attendre l'accident ou le meurtre et d'y aller et d'être le premier à voir les images pour les émissions du matin. Donc, outre, parce que le film se veut, je pense, être une, une critique de la télévision, du médium télévision. C'est pas là l'intérêt du film. Il y a d'autres films qui l'ont fait mieux, même Running Man, c'est pour dire. Mais il faut absolument le voir pour la performance de Jack Gyllenhaal. J'y arriverai jamais. Il est super bon. Il fait le psychopathe tout le long dans Los Angeles. Il est cynique. Il apprend très vite. Ben c'est un peu dur d'aller vite là.
Il déchire quoi.
Et il déchire. Très maigre. Il est super bon. Il a changé pour le rôle. Ça lui va super bien. Il fait peur. C'était vraiment extra juste pour ça. Enfin, faut y aller. Voilà.
D'accord. Vous l'avez vu Super 5?
Moi, je l'ai vu. Ouais.
Alors,
moi, je l'ai
pas vu. Bah vas-y Romain alors.
Moi, je l'ai vu et j'ai vraiment adoré. Ouais. C'est vrai que la performance de Jake Gyllenhaal est assez bluffante et. Non, faut aller le voir, voilà.
Une question à Romain.
Vas-y. Ce soir, je regarde John Wick ou Jack Gyllenhaal.
Regarde Nightcall.
Moi, je te dis, regarde. Sans hésitation. John Wick, c'est pour le samedi soir quand tu rentres du bar.
Dac.
C'était une sacrée claque.
Juste avant d'aller au guest. Alors, on parlait du milieu de la télévision, ça tombe bien. Ce sont nos deux dernières chroniques, elles concernent la télé. Puisqu'apparemment, Margot et Valentin, le dernier truc que vous avez vu, c'était à la télé, enfin. Presque,
c'était presque à la télé
parce que c'était sur Netflix, donc c'est pas tout à fait de la télé, c'est le futur de la télé. Donc c'est la nouvelle série de Vince Gilligan, auteur hautement culte de Breaking Bad, qui revient avec un spin-off, mais à la fois préquel, c'est ça, de sa série légendaire. Donc ça s'appelle Better Call Saul, et on a la bande-annonce en VF, me semble-t-il.
Quand une situation se complique, voici celui que vous devez appeler. Un homme qui connaît la loi et les moyens de la contourner. Quels que soient vos problèmes, lui seul vous en sortira.
Alors, faut-il appeler Saul ?
Eh bien, absolument, il faut appeler Saul, en tout cas, si l'on en croit le peu d'épisodes que j'ai vu. En tout cas, c'était assez extraordinaire. C'est une belle histoire de loser. Moi, j'adore les histoires de loser. Et les réalisateurs et scénaristes de Breaking Bad montrent encore une fois à quel point ils sont capables d'aller systématiquement dans le pire du pire du pire. Quand on croit que ça ne pourrait pas être pire, en fait, c'est possible, effectivement. Donc, je laisse la parole à Valentin pour la suite.
Ouais, alors donc il y a actuellement 4 épisodes qui sont sortis, ça sort chaque semaine sur Netflix. Et donc je fais plein de choses en même temps, vous savez, là je suis en train de faire cuire des pizzas et tout ça.
En fait, au moment où on enregistre, il y en a que 3.
Ouais, il y en a que 3 et
on va faire croire qu'il y en a que 4.
Il y en aura 4
cette semaine.
Mais en tout cas, sachez que le 4e épisode est très très bien.
Non mais
continue.
On est donc ça se passe 6 ans avant la rencontre de Saul Goodman et Walter White. Ouais. Donc le héros de Breaking Bad pour ceux qui l'ont pas vu. Et donc voilà, il a un autre nom, donc Saul, il s'appelle pas encore Saul Goodman, il s'appelle James McGill.
Ah d'accord.
Et donc il est avocat déjà loser en tout cas.
Ouais, mais juste quand même, la série démarre quand même après.
Oui, la série commence après. Enfin, en tout cas, la première scène.
Ouais.
Voilà, la première scène se passe après le changement d'identité, mais toute l'histoire qu'on va nous raconter, c'est un grand flashback qui va durer une saison, je pense,
d'accord.
Et qui donc raconte comment Saul Goodman est devenu Saul Goodman. Donc oui, c'est une histoire de la loose, c'est très drôle et on dès le premier épisode, on nous réintroduit des personnages de Breaking Bad. On voit Tuco. Fallait
spoil.
Regarder.
Mais non,
regarder.
Mais non,
c'est pas du spoil.
Moi j'ai l'homme de main aussi. Comment il s'appelle déjà?
Qui ça?
Mike.
L'homme de main.
Mike.
Et donc voilà, qui est un des deux acteurs et qui joue dans Community. Il faut le rappeler parce que Community, la meilleure sitcom de l'histoire de l'humanité, sort aussi bientôt le 17 mars. Mais donc bon, bref, c'est absolument à voir. Et puis si vous avez aimé Previously on AMC's Breaking Bad, vous aimerez Previously on AMC's Better Call Saul.
Tu fais vachement bien.
Merci.
T'es
le 3 ans de LEA.
Pour
pour ça. Pour ça.
Ça les valait.
Juste pour savoir dire ça.
Et franchement, tu peux faire le Previously on House of Cards, puisqu'on est. Tu voulais.
Il n'y a pas de Previously dans House of Cards.
Aurélien, je croyais qu'on n'avait pas le droit d'en parler.
Si, si, si.
Non.
Je me suis trompé, je pensais que c'était vraiment diffusé.
Non, mais on spoil rien. Là, pour le coup, on spoil rien.
Non, très bien. Juste, voilà.
On spoil rien du tout.
Dire quand ça sort, pourquoi c'est bien.
Ça sort à partir du 27-28.
Non, le 28.
Le 28 février.
En France.
Absolument. Attention.
Non, pour revenir sur House of Cards, il y a eu une boulette de Netflix où qui a.
Oui, ils ont balancé.
Ils ont balancé tous les épisodes pendant 30 minutes. Alors, boulette.
Absolument, ouais.
Boulette
ils ont biqué, ouais.
Voilà. Est-ce que c'était voulu ou pas, ça?
Alors, à mon avis.
C'est comme le stagiaire, il a cliqué. Ça peut...
Je sais que la bande annonce de
c'est comme le piratage de Sony. C'est un coup des Illuminati.
À mon humble avis, c'était voulu parce que de toute façon, ça n'aurait pas suffi pour regarder un épisode en entier. Et en France, en tout cas, les épisodes seront légalement disponibles à partir du 28 sur Canal. Et ça promet d'être vraiment, 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 vraiment énorme. D'accord. Voilà.
Très bien. Pas grand chose à rajouter.
Non.
Du coup,
Kevin Spacey, je t'aime. C'est tout ce que je voulais dire.
Jean, est-ce que tu as couché avec Kevin Spacey?
Pas récemment, non.
Non.
Bah, pas c'est mal. Bien. Non.
Du coup, je sais pas comment enchaîner.
Mais par contre, j'ai couché avec les cinéastes de Walking Dead.
Moi, oh putain, tu es un amour.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Alors, je sais pas ce que vous avez prévu d'en dire. Moi, je suis extrêmement fan de la bande dessinée.
T'as fait une super transition.
Ben oui, je sais.
C'est vrai.
Jusqu'au tome 19.
Non, tous les tomes.
Thomas, c'est un peu le mec rabat-joie. Pourquoi vous l'avez invité à chaque émission?
Toi, rabat-joie.
C'est quoi le dernier?
Ouais, le dernier. Non, j'ai arrêté.
Lille dernier. Continue. Vraiment. J'applaudis l'audace des scénaristes de l'adaptation télé d'avoir fait complètement autre chose. Vraiment très bien. Bravo. Par contre, les derniers épisodes, c'est de la merde. C'est en boîte. Faut vomir Walking Dead. C'est fini. Ok. On arrête maintenant.
J'en ai pas vu un seul.
Donc là, tu viens de me flinguer ma chronique. Les deux derniers. Tu parles des deux derniers là.
T'as aimé?
Bah le premier non, c'est une horreur, c'est une purge mentale.
C'est un scandale.
Non, il faut lire la BD, c'est tout.
De quoi?
Non, si. Vous, enfin,
non, dites rien.
On ne spoil pas. De la merde.
Le premier épisode de la
reprise
de la mi-saison, qui est réalisé par j'ai plus le nom, Greg Nicotero, quoi, qui est spécialisé dans les effets spéciaux. C'est vraiment une horreur, quoi. Ils se sont eux-mêmes tiré une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'ils ont lancé tellement de choses dans le dernier épisode d'avant qui ne résolvent absolument pas ici. Donc c'est un espèce de coup marketing comme ça. Malheureusement, Walking Dead, qui est une très très bonne série, c'est pas une série qui est très équilibrée. C'est-à-dire qu'elle navigue entre les très bons épisodes et les très mauvais, les bien chiants. Et celui-là est clairement à classer dans les pires qui est connu la série. Bizarrement, c'est celui qui a le mieux marché.
Tout le monde l'attendait.
Voilà, il y a eu genre 18 millions de spectateurs aux États-Unis, c'est un truc de fou, c'est jamais arrivé. Ils en ont perdu 2 millions la semaine d'après, ce qui est absolument logique, étant donné qu'ils n'auraient pas dû faire cet épisode. Donc voilà, si vous voulez passer directement à l'épisode 10 qui reprend la suite de la première saison, qui est un peu mieux, voilà, qui revient.
Ouais, il y a des trois plans vraiment cool.
Voilà, qui revient à leur thématique, etc. Donc. Mais bon, voilà, moi, c'est une série, voilà, forcément, je lui pardonne, je la suivrai malgré tout.
Oui,
parce que voilà, ça reste un petit plaisir coupable. Et, mais effectivement, je recommanderais aussi la bande dessinée, tu fais bien d'en parler,
qui est vraiment excellente. Et c'est pareil, en fait, ce qui est marrant avec l'adaptation télé, c'est qu'elle respecte la BD dans le sens où il y en a des excellents et des vraiment nuls, des épisodes. Et c'est vrai qu'effectivement, si t'as arrêté Thomas depuis le 19, je te comprends, mais faut tenir le coup.
Et j'ai arrêté la série à l'épisode 3 de la saison.
Ah, la série télé. Ah oui. Mais faut tenir le coup.
Ah oui, faut tenir le coup. Non, c'est là, bon, après, que ça devient intéressant en plus, quoi. Enfin, bref.
Même Game of Thrones.
Si.
Game of
Thrones, quand même. Soyons sérieux. Trop justice.
Détective.
Pour The Walking Dead, ils ont signé une saison supplémentaire ou pas?
Moi, je pense qu'ils vont en signer 20. Hein. Ouais. Ça marche, c'est un truc de fou. Quoi. Ouais. On n'a jamais vu, je crois, une série marcher autant et dans une progression aussi folle entre la première saison et la dernière. Je pense qu'ils n'arrêteront pas avant très très longtemps. Quoi.
Donc là, c'est officiel, quoi. Ils ont signé.
Ah, j'en sais rien, mais il serait
bien. Aurélien a signé.
Ouais.
C'est assez dingue parce que c'est quand même la série la plus téléchargée de toutes, je crois.
Ouais, je pense qu'à Game of Thrones, ils tirent un peu
l'avance. C'est de ta faute, non?
Bah, ça va avec le succès, ça.
Je suis désolé, Étienne, je t'ai zappé l'extrait de Walking Dead. C'est pas très grave. Si, en même temps, ils faisaient que parler. C'était juste pour la voix très sexy du héros. C'est pas grave. On va faire une petite interlude, un petit moment de grâce. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire l'interlude? Il nous reste combien de temps?
2 minutes 30.
Ah non, je suis désolé. Alors, est-ce qu'on finit sur Arcade Fire ou est-ce qu'on parle encore des festivals ou pas?
On dit au revoir et bisous tout le monde.
Ça serait dommage de pas finir sur Arcade Fire. Est-ce qu'on peut finir sur Arcade Fire? Donc voilà, je suis désolé, on parlera pas de la Berlinale.
Non, mais on fera un point sur le blog. Sur le blog, il y aura un.
TheBloggerCinemaClub.com, je rappelle. Le Nikon Film Festival, on devait en parler, mais vous en avez parlé assez.
Et on reviendra.
On reviendra, de toute façon, vous le retenterez l'année prochaine.
On parlera de la Berlinale parce qu'on avait quelqu'un là-bas pour nous. Voilà. Une correspondante.
Mais elle sera encore là dans deux semaines. C'est...
Oui.
Les écrits restent.
Elle sera exactement. Plus à Berlin.
Les mots s'envolent, les écrits
c'est
restent.
C'est pas grave, les écrits sont là.
Et donc voilà, donc je voulais remercier tout le monde autour de cette table. Je vais pas faire le tour de table, on l'a déjà fait. Remercier aussi les absents qui sont là. Charlotte, notre présidente.
La page Charlotte.
Et tous les membres du Blogueur Cinéma.
D'ailleurs, on était quand même venus pour voir Charlotte avec Romain, parce qu'on est quand même fan de Charlotte.
Elle est où?
Merci les gars.
Elle est où?
Il nous dit ça à la fin, tu sais.
Mais elle est où?
Je sais pas, elle est à Paris, non?
Non, elle est chez
elle. Elle est malade, elle est malade.
Elle a la grippe.
Elle fait croire qu'elle est malade, mais en fait elle va à Paris, mais en fait elle est malade quand même.
On voulait remercier bien sûr les gens de Studio Super 5, French Toast par la même occasion.
Tout à fait.
Et pour rebondir évidemment, TCRM Blida et surtout ZKM
Radio.
Merci en particulier Étienne qui.
Big up Étienne
qui nous supporte.
Ha ha, la famille.
On remercie les absents, Florian. Jenny,
Florian, Jenny,
Kemcup,
surtout notre troll chéri, Justine.
D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles.
Toute la clica. Étienne, c'est à toi que revient l'honneur de clore cette émission en diffusant la. Ouais. Tu seras d'accord avec moi, Margot, l'un des plus beaux groupes de ces.
L'une des plus belles BO de 2014, voilà.
Bon, voilà.
De l'histoire du cinéma, j'oserais même avancer.
C'est absolument. Arcade Fire.
Allez revoir tout le monde.
Avec Sleepwalker. Donc voilà, somnambulez bien et à dans.
Merci Aurélien, merci Aurélien.
Bisous.
Bisous, ciao ciao.
Bisous. Bonne nuit.
Bisous, bisous.
C'était Radio Cinéma Club. À la semaine prochaine sur ZKM.